Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bonjour le chat, bonjour comment ça va, bienvenue les amis, très heureux de vous retrouver pour ce stream exceptionnel. Veuillez excuser mes lunettes, je suis obligé de les porter, j'ai une ordonnance de mon styliste, vous allez me subir ainsi, comme disait un grand homme. Comment ça va? Comment ça va? Ah putain, le reflet!
Oh, le reflet! Ah, vous voyez tout là?
Ah ouais. Ah non, très bien, ouais. ouais. Merci Pompidou 2027 pour ton sub, merci beaucoup. Le setup incroyable. Non, le setup est clean. Non, mais c'est la nouvelle méta, hein. C'est la nouvelle méta. Je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la nouvelle méta, hein. Ah, maintenant, faut porter des lunettes de soleil quand on dit des trucs, hein. Ah ouais. Ah, non, ça claque, hein. Elles sont moins ringardes que celles de Manu Max. Ouais, je te l'accorde. Mais, alors, j'ai lu, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu que les lunettes de Manu Max, c'est des lunettes françaises. C'est pas des Ray-Ban américaines. Non. C'est un fabricant de lunettes français historique qui les fabrique depuis très, 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 très longtemps, qui les fabrique toujours, et voilà. Je sais plus comment ça s'appelle, je sais plus ce que c'est la marque. Ouais. Made in France. Ouais, exactement. Ray-Ban. Ça s'appelle Ray-Ban. La top gunisation de la politique française. Oh, au secours, t'imagines? Les politiques avec des vestes en cuir et tout. Oh, quel enfer. Paco Rabanne. Non, c'est pas Paco Rabanne. Je sais plus ce que c'est. C'est une marque de lunettes française. J'en sais rien. J'y connais rien. J'ai les mêmes paires de lunettes avec noté Paul & Chill. Bah c'est celle-là, c'est les lunettes de Paul & Chill. Ouais. Sauf que ça se voit pas très bien, mais il y a écrit Paul & Chill sur le côté. Non, ça s'est effacé avec le temps. Ça avait coûté un bras, hein, à fabriquer. Voilà quoi. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez une bonne journée? Est-ce que tout se passe bien pour vous? Est-ce que tout roule? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud pour la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale? J'ai pas encore vu la date précise des motions de censure. Je continue à partir sur un vendredi matin. Pas sûr. Hop. Merci mes flowers. Aujourd'hui, on est le 21 janvier. Mesdames et messieurs, on est le 21 janvier. Merci la ETD. 21 janvier, jour anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Eh ouais. Donc, la tradition veut que si vous êtes de gauche, vous mangez de la tête de veau ce jour-là. Et si vous êtes de droite, vous portez une tenue digne, une cravate noire. C'est un jour de deuil. C'est un jour de mémoire et de souvenir. Voilà. C'est pas une blague, hein. Y a vraiment des gens qui respectent cette tradition. Un peu moins maintenant, on va pas se mentir, c'est un peu passé, mais il y en a. Il y en a. Je suis en pyjama noir chez moi. Félicitations. Non, pas de droite, d'extrême droite plutôt. Oui, t'as raison. C'est plutôt l'extrême droite qui a des sympathies monarchistes, qui respecte un jour de deuil le 21 janvier, alors que les Républicains, ces fiefés révolutionnaires et leurs descendants mangent de la tête de veau pour célébrer tout ça. Ça fait 233 ans, merci Perceval, 233 ans après la décapitation de Louis XVI. Premier chef d'État français condamné à mort. Hein. Ouais. Est-ce qu'on va avoir des cravates noires à l'Assemblée? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va avoir des cravates noires à l'Assemblée? Je sais pas. 33 ans après le sketch des Inconnus. Ah bah oui, le bicentenaire. Le bicentenaire de la Révolution. Je vous ferai dire qu'à l'époque de Giscard, ils l'ont pas fêté, le bicentenaire. Ouais. Il y a 33 ans, le sketch des Inconnus. Louis Croivet Bâton. Mmh. N'oublions pas Vercingétorix. Y a un très très bon numéro de l'Histoire fait date, de Quand l'Histoire fait date, sur Arte, avec Patrick Boucheron qui parle de Vercingétorix et de la bataille d'Alésia. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder, c'est passionnant. Le deuxième chef d'État condamné à mort, c'est qui? Le deuxième chef d'État condamné à mort, c'est Philippe Pétain en 1945. Sa peine a été commuée en une peine de réclusion criminelle à perpétuité sur l'île Dieu. Il y avait aussi Charles de Gaulle qui a été condamné à mort pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime de Vichy, mais il n'était pas chef d'État. Voilà. Et il n'était pas là, de toute façon, il était à Londres. Condamnation par contumace. Robespierre, ouais, c'est une bonne question. Est-ce que Robespierre était formellement chef d'État? Un peu compliqué. Peut-être, hein, là pour le coup, j'admets à mes connaissances du truc. Est-ce qu'on peut dire que Robespierre a été chef d'État? En pratique, peut-être. Napoléon III, il est mort de quoi? Je ne sais pas de quoi est mort Napoléon III, mais Napoléon III a été capturé à la bataille de... Machin, 1870. Sedan? Non, pas Sedan. Je sais plus. Si, Sedan? Si, c'est Sedan, c'est la bataille de Sedan. Ok. Non, j'ai eu un doute. L'espace d'un instant, j'ai eu un doute. Mais ouais, non, voilà. Après, chef d'État ou ancien chef d'État condamné par la justice, bah Jacques Chirac, dans l'affaire des HLM de la mairie de Paris, ou du financement du RPR, je sais plus. Puis Nicolas Sarkozy, affaire du financement libyen, affaire Bismuth, et autres, et peut-être bientôt autres. Big Malion, est-ce que Sarkozy a été condamné dans l'affaire Big Malion? Je ne suis pas convaincu. Il a peut-être été auditionné comme témoin ou témoin assisté, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Officiellement, il n'était pas chef d'État, mais c'était le comité. Officieusement, il était à la tête du comité. Oui, t'as raison, comité de salut public. Oui. Bon, peut-être effectivement qu'on peut considérer que Robespierre a été chef d'État français. Ouais. Ouais, carrément. Marine Le Pen, si elle devient présidente? Marine Le Pen, elle aura réussi à être condamnée avant de devenir présidente. C'est fort quand même. On verra. Marine Le Pen qui est actuellement devant la justice, mesdames et messieurs. Bon, je retire ses lunettes, ça me gonfle, je vois rien, c'est chiant. Marine Le Pen qui est devant la justice, hein, à l'heure où je vous parle, elle s'explique. Est-ce qu'on a la date du procès en appel de Marine Le Pen? Eh bien, la date, c'est la semaine dernière. Voilà, le procès en appel de Marine Le Pen pour le détournement fictif, le détournement de fonds publics du Parlement européen. Le procès en appel a commencé la semaine dernière et à l'heure où je te parle, Marine Le Pen est probablement en train de s'expliquer devant les juges. Le verdict du procès de Le Pen est prévu pour quand? Le verdict du procès de Marine Le Pen est prévu pour l'été prochain. Je crois que les audiences vont durer un mois. Je crois, j'ai lu ça quelque part, je ne suis pas sûr. Le verdict est attendu pour l'été. On verra. Ouais, le procès, c'est jusqu'au 12 février. Ouais, ça fait à peu près un mois, ouais, c'est ça. Mmh. Détournement fictif. Non, non, mais je me suis trompé, j'ai lapsusé, excusez-moi. J'ai lapsusé, je voulais parler de détournement de fonds publics et d'emploi fictif. Du coup, j'ai mélangé. Ça prend un temps fou, c'est insupportable. Ça s'appelle la justice. Et c'est pas un mal que ça prenne du temps. Surtout pour des dossiers complexes comme ça. Je te jure que quand tu passes en comparution immédiate pour un délit routier, ça va assez vite, hein. Rien à voir, mais c'est quoi le truc Brigade de Véro? Ah ouais, bah, faut que je vous en parle, Brigade de Véro. Mesdames et messieurs, je suis sponsorisé, ma chaîne est sponsorisée, j'ai le plaisir. Je l'ai annoncé la semaine dernière, mais il y en a peut-être qui n'étaient pas là. Je suis sponsorisé par la Brigade de Véro. La Brigade de Véro est un service qui vous permet de vous commander des plats à réchauffer chez vous pour manger. À titre personnel, je mange la Brigade de Véro tous les jours. J'en suis à ma deuxième semaine, là, c'est très très bon. Et voilà, vous faites point d'exclamation Véro dans le chat, vous aurez accès au site internet et avec le code promo Jean Massier, vous bénéficiez de 50% de réduction sur votre première semaine pour tester, vous faire un avis, vous dire ce que vous en pensez, machin, tout ça. Ensuite, vous paramétrez comme vous voulez votre commande. Vous paramétrez, ça peut être que pour une semaine, mais ça peut être un abonnement sur plus long terme. Et vous recevez chaque semaine un colis frais à mettre dans votre frigo. Et ensuite, vous tapez dedans pour manger. Et c'est très bon. Tu sais que depuis que tu en as parlé, je suis spam de pub Insta. C'est grave. Ah merde. T'as les pubs Insta de la Brigade de Véro. Mais regarde, t'as la pub Twitch. Elle est vachement mieux. Elle est vachement mieux. Donc non, n'hésitez pas à en bénéficier. Vous verrez que la Brigade de Véro. Vous verrez que la Brigade de Véro. Alors attendez, je vais aller carrément sur le site pour vous montrer. Vous verrez que la Brigade de Véro vous propose des formules, notamment des formules autour de la perte de poids pour les personnes qui souhaitent maigrir, mincir, perdre du poids, manger équilibré, etc. Ils ont toute une offre qui est calibrée pour les gens qui cherchent ça. Ce n'est pas mon cas. Je ne cherche pas particulièrement à perdre du poids. Ça tombe bien, la Brigade de Véro me propose aussi des offres complètement calibrées pour moi qui ne sont pas faites spécialement pour perdre du poids. Et voilà, et vous avez toutes les offres que vous voulez, sans porc, sans poisson, veggie, mais avec du poisson, nutrition et bienfaits, ménopause si ça vous concerne, équilibre plus, équilibre protéiné. Moi, je crois que j'ai ça, moi. Je crois que j'ai ça. Je sais plus ce que j'ai. Quotidien protéiné, quotidien veggie, senior, tout ça, machin, en fonction de vous. N'hésitez pas à choisir la formule qui vous correspond le mieux. Hop. Et c'est 100% français, made in France, complètement franco-français. D'ailleurs, la Brigade de Véro, ils m'ont écrit parce que la semaine dernière, vous m'avez posé la question, j'avais pas la réponse. Vous m'avez demandé est-ce que ça livre en Corse? Et la réponse est non. Non, la Brigade de Véro ne couvre pas la Corse. Et la raison à ça, c'est que malheureusement, les frais de livraison en Corse sont absolument hors de prix. Je crois que c'est 50 balles, juste les frais de livraison pour des produits frais en Corse. C'est malheureusement le caractère insulaire du truc qui fait que c'est compliqué. Par contre, vous avez la Belgique. Et voilà. Est-ce qu'ils font de la tête de veau? Je sais pas, j'ai pas regardé dans le menu cette semaine. C'est possible que la Brigade de Véro, ils fassent de la tête de veau le 21 janvier. J'espère. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter du code promo Jean Massier qui vous offre 50% de réduc pour votre première commande pour tester et ça me soutient par ailleurs. Voilà. Les prix, c'est à la semaine ou au mois? Les prix, c'est à la semaine. Les prix, c'est à la semaine. Alors après, vous calibrez votre commande comme vous le voulez. Vous pouvez choisir 4 jours, 5 jours, 6 jours. Et un jour, ça correspond à deux repas. Donc ça fait des gros colis à la fin. Je vous laisse faire le calcul. Et vous pouvez choisir de rajouter des desserts ou des petits déjeuners. En plus, en fonction de vos habitudes de consommation. À titre personnel, je ne prends pas de petit-déj, donc j'ai laissé tomber le petit-déj. Voilà. Dommage, il n'y a pas vegan. Il n'y a pas vegan, il y a VG. Ouais, il y a VG, mais je crois pas qu'il y ait vegan, t'as raison. Je pense qu'ils peuvent pas garantir le caractère vegan de leur préparation. T'as une livraison par semaine, Jean? Ouais, j'ai une livraison par semaine, tous les mercredis à 11h du matin, si vous voulez tout savoir. Je reçois mon colis de la semaine. Voilà, c'est tout. Est-ce que le micro-ondes est obligatoire pour réchauffer? Ça dépend des plats. Puis d'ailleurs, la réponse est non. T'as pas nécessairement besoin d'un micro-ondes pour réchauffer. Tu peux tout réchauffer au four. Et il y a certains plats qui sont à réchauffer spécialement au four. Voilà. Est-ce qu'on peut payer en ticket restaurant? La réponse est oui. La réponse est oui. Alors ça aussi, vous m'aviez posé la question la semaine dernière et la brigade de Véro m'a apporté l'information. La réponse est oui. Vous pouvez payer en ticket resto. Je vous avoue que je ne sais pas comment ça marche. À titre personnel, je ne paye pas en ticket resto. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je crois qu'il y a des tickets resto numériques maintenant. Vous pouvez rentrer un code. Je ne sais pas comment ça marche. Mais vous pouvez payer en ticket resto. Soit une partie, soit la totalité. Je ne sais pas non plus. Je vous laisse vous renseigner sur le site. Vous aurez toutes les infos. Est-ce qu'on peut choisir le jour de livraison? Ouais, tu choisis le jour de livraison, tu choisis l'heure de livraison, tu choisis un créneau. Maintenant, les tickets resto, c'est des cartes. On peut les utiliser comme des cartes de paiement. Hein? Je ne savais pas. Je sais pas. J'ai jamais eu de ticket resto, moi, dans ma vie. Donc, effectivement, je ne savais pas. D'accord, bah, très bien. Et bah voilà, vous pouvez utiliser votre carte ticket restaurant pour payer. C'est combien le prix environ? Bah écoute, je te laisse checker sur le site. Hein. Après, ça dépend. Il faut que tu paramètres ta commande. Hein. Je sais pas ce que tu as envie de manger. Je sais pas quel est le. Merci Lucie. Je sais pas exactement ce que tu as envie de mettre dans ta commande. Donc le prix va varier. Est-ce que tu peux choisir les plats? J'ai pas encore poncé suffisamment le site. Je crois pas. Je crois pas, ça fait que 2 semaines hein, moi que j'utilise la brigade de Véro. Avant j'étais ailleurs. Est-ce que c'est fait localement au niveau régional ou c'est une centrale et c'est dispatché dans le pays via des transporteurs? Je ne sais pas. Là, tu me poses une question logistique pour laquelle j'ai pas la réponse. Je suppose que c'est fait plus ou moins en centrale où ils ont découpé le pays en plusieurs. Je ne sais pas. Je peux pas te dire. Le système d'engagement est un peu freinant, je trouve. Mais tu t'engages pas sur la vie entière, hein. Tu l'arrêtes quand tu veux, ton abonnement. Tu peux faire une semaine pour tester, si ça te plaît pas, tu laisses tomber, hein. Si tu es en société, c'est fiscalement avantageux de te faire des tickets resto. J'en sais rien. Oui, peut-être, tu as peut-être raison, j'en sais rien. Je suis pas très bon en optimisation fiscale, je te l'avoue. C'est une cuisine centrale qui se trouve à Montpellier. Ok, d'accord. Ok. Je savais pas. Je savais pas. Donc voilà, fin du moment promotionnel. Hop. Fin du moment promotionnel. N'hésitez pas. Je vous en reparlerai à peu près une fois par semaine. Je vous en reparlerai de la brigade de Véro. N'hésitez pas à tester. Code promo Jean Massier. Pour info, la rediff de lundi de la semaine dernière est enfin en ligne après de nombreuses opérations de robots YouTube. Putain, merci. Merci Thomas, t'as géré. Désolé, c'est parce qu'on a regardé des trucs alors qu'on n'avait pas les droits de diffusion, donc on a été niqué. Donc voilà. C'est chiant si on te propose un resto et que tu dis désolé, j'ai mon colis qui m'attend. Si tu fais ça, t'es débile. Ben non. Le hangar de Zera, ils ont une sponsor de la brigade de Véro pour les événements. Ok, cool. Ok. Donc, séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale qui va commencer à 14h. Didadidadoum, est-ce que j'ai bien ouvert le bon doc? Oui, ça c'est bon, merci Perceval. Il faut que j'ouvre le waiting screen qui est là. 21 janvier, didadidadoum. On est en plein forum de Davos, Forum économique mondial, le World Economic Forum. qui se tient à Davos chaque année, lieu de rencontre de chefs d'État normalement pour aborder les questions économiques. Là, évidemment, cette année, il est beaucoup question de géopolitique et de guerre commerciale avec Donald Trump qui met des droits de douane à tout le monde et y compris à l'Europe à cause du Groenland. Donc, les prises de parole des chefs d'État étaient très attendues. Conférence de presse de Donald Trump avant de partir depuis Washington. Prise de parole de Donald Trump à Davos, peut-être cet après-midi, je ne sais pas. Ça, c'est pour le contexte international. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Le 49-3 a été engagé par Sébastien Lecornu hier en direct sur la chaîne Twitch de Jean Massier. Sur le budget 2026, budget 2026 dans lequel le gouvernement et Sébastien Lecornu en personne a fait de nombreuses concessions en direction de la gauche, ce qui ne plaît pas à la droite et ce qui fait grincer des dents jusque dans la majorité, enfin la majorité relative des macronistes à l'Assemblée nationale, qui trouve que Lecornu a lâché en race campagne trop de trucs aux socialistes, que le budget coûte trop cher, que le déficit est trop important, que l'endettement est trop fort, qu'il y a trop de dépenses. Bref, personne n'est content de ce budget. Comme c'était prévu à la fin, un compromis, c'est quand tout le monde est mécontent. À droite, on a entendu de la bouche de Laurent Wauquiez ce matin que les députés LR n'avaient pas l'intention de censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Pas de censure, donc. On s'y attendait, mais on attendait quand même d'avoir la confirmation de la part de Laurent Wauquiez, compte tenu du fait qu'il est tancé de l'autre côté par le président du parti, Bruno Retailleau. J'ai entendu aussi hier, alors c'est un détail pour vous, mais il y en a pour qui ça veut dire beaucoup, David Lisnard, le maire de Cannes, président de l'Association des maires de France, homme très influent à droite, qui plaide pour une primaire à droite en vue de l'élection présidentielle de 2027. David Lisnard, qui a fait un grand meeting avant-hier à Paris, au cours duquel il a dit qu'il fallait censurer le gouvernement de Sébastien Lecornu. Trop, c'est trop. L'opposition doit s'opposer. On ne peut pas continuer à accompagner les macronistes jusqu'à la mort. Il faut se séparer. Il faut prendre notre indépendance. Il faut remonter le blason de la droite. C'est important, cette prise de parole de David Lisnard, dans le contexte précisément de la pré-campagne présidentielle à droite. Parce que justement les enchères commencent à monter et on sent qu'une partie de la droite essaye de jouer le plus possible la clé de l'opposition responsable à Emmanuel Macron. Opposition d'un côté, responsable de l'autre, opposition en censurant le gouvernement, responsable en ne censurant pas le gouvernement. C'est toute l'ironie et toute la difficulté de la position. Vous me direz en miroir, c'est à peu près ce qui se passe au Parti Socialiste, hein, avec l'idée de dire on est dans l'opposition aux macronistes, mais par responsabilité, on ne censurera pas un budget dans lequel on a obtenu des concessions. Et bah, le reste de la gauche accuse le Parti Socialiste de trahison et de compromission avec les macronistes, et le Parti Socialiste essaye de jurer que si, on est toujours des opposants. Ça commence à devenir difficile à tenir comme position à droite comme à gauche. Bon, est-ce que tout ça va vraiment jouer un rôle important et déterminant dans le cadre d'une campagne présidentielle ? C'est pas certain. C'est pas certain. On verra. Ça, c'est pour le contexte. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément d'actualité à avoir en tête avant de commencer cette séance de questions d'actualité au gouvernement ? Je sais pas, je suis en train de regarder les titres. Ouais, Forum de Davos, d'accord, très bien. L'accord sur le Mercosur. Merci Charlie Bonze. Merci. Les eurodéputés votent pour la saisine de la justice européenne, d'accord. Donc c'est la Cour de justice de l'Union européenne qui va trancher visiblement le Mercosur, je pense pas, mais au moins pour qu'il se prononce. Donald Trump ne s'est pas encore exprimé à Davos, d'accord. Ouais, c'est cet après-midi le discours de Trump. Ok. Non, je sais pas. J'essaie de chercher. Merci Benoît qui a utilisé le code Jean Massier pour s'abonner pour sa première semaine à la Brigade de Véro. Merci Benoît. Merci, Narayana. Merci. Discours remarquable du Premier ministre canadien à Davos, d'ailleurs. Ah ouais, je l'ai pas écouté. J'ai essayé d'écouter le discours d'Emmanuel Macron en anglais, là. Je vous avoue que j'ai décroché à un moment. Je sais pas, j'y arrivais plus, là. J'étais fatigué. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais aller regarder la conférence de presse de Donald Trump à Washington. Pareil, j'ai décroché. Ça n'a aucun sens. Vraiment, je suis désolé, Donald Trump qui parle, c'est décousu, on comprend rien. Il est con comme une table. C'est dur. Alors qu'en plus, c'est mon métier, hein, je suis censé faire. Enfin, voilà, quoi. Non, c'était chaud. Après, je voulais écouter Mélenchon et Jean-Noël Barrot qui ont débattu sur le plateau de BFM TV, si je dis pas de bêtises, sur les questions internationales, et j'avais pas le temps. Donc je le ferai ce soir peut-être. Je m'étais mis ça de côté. Pas le temps de le faire. C'était France 3? France 2? Ah, c'était France 2? Pardon, excusez-moi, France 2, service public, pardon. Oh, je vous ai confondu avec BFM. Oh là là! Je suis désolé! Toutes mes confuses, France 2. Et d'ailleurs, la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a repris ses travaux. C'est toujours autant n'importe quoi, cette commission d'enquête. Ça n'a pas changé. Ils ont dit qu'ils allaient auditionner Patrick Sébastien. Merci Hervin ou Hervin, merci beaucoup d'avoir choisi le code promo Jean Massier pour la brigade de Véro. Non, moi si j'étais député, je poserais une question à Patrick Sébastien. Est-ce que tu l'as vu? C'est dire le sérieux que j'accorde au processus. C'est absurde de l'auditionner car il a été licencié par AirNaut, donc il est parti pris. Bah, alors pour ceux qui ne le savent pas, Patrick Sébastien, ancien animateur vedette de France Télévisions, qui animait le plus grand cabaret du monde, et l'émission Le plus grand cabaret du monde a été arrêtée par France Télévisions. Et depuis l'arrêt de cette émission, Patrick Sébastien est en guerre ouverte contre France Télévisions et particulièrement contre Delphine AirNaut, la présidente. Pour des raisons que j'imagine, ça doit être particulièrement frustrant d'arriver en fin de carrière comme ça. Et donc, il en a gros sur la patate, et donc, il a envie de dénoncer, il a envie d'en foutre plein la tronche à la direction de France Télévisions, il a envie de régler ses comptes. Et tout ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, tout ça est tombé dans l'oreille de l'extrême droite, qui se dit, ah ah ah, si c'est une manière de se faire encore un peu plus l'audiovisuel public, on n'a qu'à l'auditionner. Voilà. On en est là. Qui accorde du crédit à Patrick Sébastien? Celles et ceux qui en veulent à l'audiovisuel public. Voilà. Patrick Sébastien qui a créé un parti politique, d'ailleurs. Tout le monde s'en fout. Mais Patrick Sébastien, il y a quelques mois, il a donné naissance à un parti politique. Il avait déjà fait le coup il y a 15 ans, qui s'appelait le DAR, à l'époque, mais là, ça s'appelle... Comment ça s'appelle son truc? Non, ta gueule, ta gueule, ta gueule. Ah, ça me saoule, les pubs, là. Non, mais tais-toi! Ah voilà, ça s'appelle Ça suffit. Ça s'appelle Ça suffit, point d'exclamation. C'est le nom du parti politique de Patrick Sébastien. Alors, il a dit que ce n'était pas un parti. Bref, peu importe, il a le droit. Et il a surtout dit qu'à ce stade, il n'était pas candidat à l'élection présidentielle. Oui, c'est ça, c'est pas un parti, c'est un mouvement. Oui, oui. Oui, on nous l'a déjà fait, on l'a déjà fait. On la connaît. Bon, bref, peu importe, Patrick Sébastien, qui se lance en politique, sans se lancer vraiment. On verra où ça va. Whatever. Il a dit que c'était ses partis. Ah, vous êtes bête. Pourquoi on parle de ça? Ah oui, commission d'enquête parlementaire. On s'en fout, ça n'a rien à voir avec les questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Merci Thibald. Alors c'est marrant parce que la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, bon moi depuis le début je considère que c'est à chier, mais c'est ma petite opinion à moi, il n'y a que moi que ça concerne. Je trouvais évidemment que le rapporteur Charles Alloncle était dans son rôle. Il est là pour dézinguer l'audiovisuel public, c'est un projet politique, il le porte et il le fait très bien. Je trouvais que le président de la commission s'en sortait pas trop mal. Jérémy Pertrier-Latuisse, c'est ça son nom exact. Jérémy Pertrier-Latuisse, président de la commission, qui est un député Horizon, qui préside la commission. Et là, en reprenant les travaux, à la séance d'ouverture, il a dit, je cite, attention, accrochez-vous, je suis attaché viscéralement au droit à l'humour, à l'irrévérence, à la caricature et à la satire, qui sont des principes fondamentaux de notre démocratie. Mais l'humour ne peut être un prétexte pour porter des opinions politiques, faire du militantisme politique. Fin de citation. On parle d'un président de commission d'enquête à l'Assemblée nationale de la République française. On est 11 ans après les attentats de Charlie Hebdo. Et il a dit qu'il allait saisir le bureau de la commission pour trancher la question de savoir où s'arrête l'humour et où commence le militantisme. On est bien, non? Non, c'est sympa. Non, mais il y a une ambiance. C'est agréable, on vit des moments intéressants. Non, c'est chouette. C'est chouette. Et du coup, Charline Vonnenecker et Marwan Ben Lazar, si j'ai bien compris, vont être auditionnés par la commission d'enquête. C'est donc, à ma connaissance, la première fois de l'histoire de France que des humoristes vont être auditionnés, passés au grill d'une commission d'enquête parlementaire, devant laquelle ils vont devoir justifier de leurs blagues. Déjà qu'en décembre dernier, quand c'était Patrick Cohen et Thomas Legrand, qui sont des journalistes politiques, qui devaient justifier de leur journalisme politique devant des politiques, ça nous avait tous gênés. Mais alors là, des humoristes qui vont devoir s'expliquer devant des politiques. Merci Darbonovitch. Non, c'est sympa cette commission d'enquête. En tout cas, si on avait un doute sur à quoi sert cette commission d'enquête, j'espère que tout le monde est fixé. Là, ça a le mérite d'être clair. On sait où on va, là. Voilà. C'est pas... Hâte que tu répondes des invités de Backseat. Alors, tu rigoles? Mais sur Twitter, il y a des mecs d'extrême droite qui ont commencé à dire qu'il faudrait une commission d'enquête sur la radicalisation gauchiste des streamers sur Twitch. Je pense que ça arrivera jamais, mais bon, on vit tellement dans un monde de fous qu'il y a un scénario où un jour, des mecs comme moi vont se retrouver devant des députés à devoir se justifier de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de comment on le fait, de pourquoi on le fait, etc. Non mais c'est lunaire ! C'est lunaire ! Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, justement, il faut que je retrouve l'extrait exact qui a été partagé par le Figaro. Voilà, c'est là. Merwan Ben Lazar, l'humoriste qui, sur France Inter, a fait une chronique dans laquelle il a donné son opinion. Et il a dit à quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. On devrait s'en inspirer. Et Jérémy Patrier-Lettus, toujours président de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'audiovisuel public, répond: votre appel à la censure politique et au cordon sanitaire médiatique sous couvert d'humour sur France Inter est grave et inacceptable. Voilà. On en est là. Votre appel au cordon sanitaire est grave et inacceptable. Ah, on a fait du chemin depuis Chirac. Hein. Ah ouais, non, ça a bougé. Hein. C'est vraiment le problème des Français numéro uno, Merwan. Oui, par ailleurs. Non, mais enfin. Donc tout ça est inquiétant. Tout ça est évidemment inquiétant. On a affaire à la médiocrité et à la bassesse d'une élite politique qui n'a pas de repères, qui a le dépassement politique comme seule boussole et qui ne tolère plus la possibilité d'avoir une autre approche, par exemple celle du cordon sanitaire. Et c'est ça qui est inquiétant, quoi. Merci, Maxime. Je suis d'accord avec Horizon pour le coup, on ne fait pas le cordon sanitaire avec un camp politique qui pèse aussi gros maintenant, c'est trop tard. Le cordon sanitaire, c'était il y a 30-40 ans qu'il était justifiable, plus maintenant. Il faut trouver d'autres outils acceptables, celui-là ne l'est plus. D'accord. Et du coup, c'est à quel moment que tu as basculé ? C'est quoi le nombre ? C'est quoi la jauge ? À quel moment tu switches ? Le Conseil constitutionnel ne peut pas intervenir ? Non, le Conseil constitutionnel ne peut intervenir que s'il y a le vote d'une nouvelle loi qui justifie une prise de position, qui change la donne et qui serait de nature à porter atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Là, on est dans le cadre d'un travail parlementaire, somme toute, assez classique. C'est quoi le cordon sanitaire exactement ? Alors, le cordon sanitaire, il porte assez mal son nom, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle cordon sanitaire historiquement en France, c'est une limite entre la droite et l'extrême droite qui sépare très nettement droite et extrême droite pour des raisons historiques. Le cordon sanitaire, c'est hérité, en fait, de la reconstruction politique dans le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et le camp de droite gaulliste, issus du gaullisme et donc de la résistance française ne voulaient évidemment en aucun cas travailler avec l'extrême droite issue de la collaboration avec le nazisme. Il était impensable pour un gaulliste de travailler avec un pétainiste. C'est pas possible, ça n'a pas de sens, ça n'arrivera jamais. Et ça a fonctionné comme ça pendant des décennies, où ça continuait à exister, où la droite, y compris gaulliste, participait au Front républicain là où c'était nécessaire pour les élections. Et tout ça s'est étiolé à partir des années 2010 et de la normalisation de Marine Le Pen et du Rassemblement National, qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de liens entre la droite et l'extrême droite. Le pendant du cordon sanitaire, c'est ce qu'on appelle l'union des droites. L'union des droites, c'est un projet. Ça a longtemps été un espèce de fantasme dans l'esprit de certains intellectuels de droite qui considéraient qu'il fallait réconcilier droite et extrême droite pour créer un vrai bloc conservateur français et qu'il fallait oublier les querelles du passé. Aujourd'hui, l'union des droites est en passe de réussir son projet. Il y a de plus en plus de signes absolument quotidiens de fragmentation et d'ouverture. On va le voir à nouveau à l'occasion des élections municipales, où il y a des candidats, les Républicains, qui n'hésitent pas localement à faire alliance avec des candidats d'extrême droite, ou alors au second tour, avant le second tour, etc. Tout ça est encore à définir, mais on est en plein dedans, quoi. Donc c'est ça qu'on appelle le cordon sanitaire historiquement. Ensuite, ce à quoi fait référence Merwan Ben Lazar, je ne sais pas si c'est le cordon sanitaire, si c'est le mot qui est utilisé par les Belges, mais ça a été pratiqué aussi en France pendant des années, c'était le fait que l'extrême droite est intolérable dans le débat public par défense des valeurs républicaines, de la démocratie, de ses valeurs, et que donc il ne fallait évidemment pas inviter de responsables d'extrême droite dans les médias. Les rares fois où ça se faisait, c'était très sulfureux. Dans les années 80-90, Jean-Marie Le Pen, les journalistes ne le recevaient pas tous les quatre matins. C'était rare, c'était à chaque fois un événement, c'était sulfureux. En plus, Jean-Marie Le Pen, évidemment, dérapait à chaque fois et il finissait devant les tribunaux parce qu'il faisait du révisionnisme ou ce genre de conneries. Mais voilà, ça aussi, ça a changé avec les années 2000 et 2010, avec l'événement des chaînes d'opinion comme CNews, avec l'ouverture de plus en plus fréquente des débats politiques à l'extrême droite, qui a participé à la normalisation du Rassemblement National. Voilà. Donc vous voyez que les deux sont imbriqués. Cordon sanitaire et acceptation dans les médias se nourrissent l'un l'autre et facilitent la progression du truc. Voilà, pour vous la faire courte, voilà un peu l'idée. Où est le cordon sanitaire aujourd'hui ? Le cordon sanitaire, si tu parles de quoi ? Dans les médias ou à droite ? Le cordon sanitaire dans les médias, il existe dans les médias qui continuent à le pratiquer. C'est le cas de Libération, c'est le cas du journal Le Monde, c'est le cas de certains médias qui refusent d'inviter l'extrême droite et qui ne les invitent pas. Alors, les médias radio et télé ont du mal à faire ça parce que les médias radio et télé ont des obligations légales d'égalité ou d'équité de temps de parole pour les candidats aux élections. Donc c'est un peu spécifique. Mais du reste, sur Internet, il y a plein de médias qui... voilà. C'est le cas de Baxit, oui, c'est le cas de Baxit, par exemple. Et voilà. Est-ce que tout le monde le fait ? Est-ce que Le Monde le fait ? Ah, le journal Le Monde, à ma connaissance, n'a jamais, jamais, jamais interviewé Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen, j'ai un gros doute. Possible. Je pense pas. Ça m'étonnerait. Comme il y a des médias qui n'invitent jamais la gauche. Oui, il y a des médias qui n'invitent jamais la gauche. Et c'est leur droit. Figurez-vous, c'est fou quand même. C'est bien. C'est-à-dire qu'en fait, ma liberté s'applique aux autres de la même manière. C'est marrant quand même. C'est ça qui est bien avec la liberté. C'est que c'est exclusif de rien du tout. Ouais, ils ont carrément le droit en fait. C'est libre à eux, il n'y a pas de souci. Ils ont le droit. C'est bien des chaînes d'opinion, je trouve. Alors ça, c'est un débat. Alors en France, il y en a, enfin, historiquement, l'ARCOM interdit les chaînes d'opinion pour des raisons justement de pluralisme avec les règles d'égalité et d'équité des temps de parole. Dans le cadre de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, s'est exprimée en amont de son audition. Elle avait déclaré, ça m'avait surpris, elle avait déclaré qu'elle n'était pas défavorable dans l'absolu à ce qu'on se dirige vers un système télévisuel dans lequel il y aurait des chaînes d'opinion. Après tout, pourquoi pas? Il y a un côté, ne faudrait-il pas faire évoluer le système français vers une acceptation du fait qu'il existe des chaînes d'opinion et que c'est comme ça, et que c'est comme ça, et que c'est pas grave, et qu'il faut le faire, machin. Je suis très réservé sur le sujet, même si je suis loin d'être un expert en télé, je suis plutôt dans le numérique, moi, mais... Je sais pas, c'est compliqué. Tu penses pas que l'introduction d'un cordon sanitaire à la télévision renforcerait encore plus le complotisme des électeurs du RN, agrandissant la fracture idéologique du pays? En fait, c'est un jeu à somme nulle dans lequel tu ne peux pas gagner. Soit tu invites le RN et ça les fait progresser, soit tu ne les invites pas et ça les fait progresser. Ah, tu choisis quoi en fait? C'est ça le problème en fait de cet argument, c'est toujours pareil. Tu joues le jeu du RN, c'est ce que m'avait dit Sonia Mabrouk sur un plateau télé une fois. Elle m'avait dit, c'est vous qui faites monter le RN en refusant de les inviter. Donc en fait, quoi que tu fasses, tu fais monter le RN. Tout le monde joue le jeu du RN. Tu joues le jeu du RN. Tu savais pas? Bah, je te le dis. Mais bon. Bah, du coup, on peut rien faire. Moi, je préfère ne pas les entendre tant qu'à faire. Alors, par ailleurs, non, mais truc qui est important, parce que là aussi pour Baxit, hein, la liberté des médias, notamment numériques ou presse écrite, d'inviter qui ils veulent n'est absolument pas antinomique de votre liberté d'écouter ou de ne pas écouter. Je ne vous en voudrais jamais de ne pas écouter un invité de Baxit que vous n'aimez pas. Vous avez le droit. C'est votre droit. Je vous retirerai jamais ça. Voilà. Faites ce que vous voulez. C'est pas grave. Par contre, vous m'empêcherez pas de l'inviter. On ne se dirige pas vers des gros tunnels si on tombe sur des 100% de médias d'opinion. Bah, c'est un peu un des risques. Moi, j'en sais rien. Ça me paraît compliqué quand même, hein, de l'ouverture à des médias d'opinion des canaux de la TNT. Si la diversité est respectée, s'il reste des chaînes d'information, c'est important. Et c'est là que le service public a un rôle à jouer. Pour garantir une information de qualité. Non pas que seul le public puisse faire de l'information de qualité, le privé aussi peut le faire. Mais si le privé juge plus rentable de faire de l'opinion, alors ils font de l'opinion. Je sais pas. Tu vas pas dire que CNews n'est pas une chaîne d'opinion. En fait, selon moi, CNews est une chaîne d'opinion. Mais ça, c'est ma petite opinion à moi. CNews en a rien à foutre de ma petite opinion, ils ont bien raison. Le CNews est encore aujourd'hui contraint à des règles, notamment d'équité et d'égalité de temps de parole pendant les campagnes électorales, à des règles d'honnêteté dans la transmission de l'information, à des règles de tenue d'antenne, etc. Tout un tas de règles que l'ARCOM vérifie, et CNews a déjà été rappelé à l'ordre à plusieurs reprises par l'ARCOM. L'idée d'un jour créer des chaînes d'opinion, ça voudrait dire qu'on change les règles du jeu et qu'on accorde à CNews le fait d'être une chaîne d'opinion. Elle a le droit d'être une chaîne d'opinion, elle n'est plus tenue à des règles de pluralisme, d'égalité de temps de parole, machin. C'est pas grave, ils font ce qu'ils veulent, il y a une forme de libéralisation du truc. Et voilà. Alors peut-être que ça mettrait fin à une hypocrisie, on peut en discuter. Bolloré se torche le fiac avec les règles de l'ARCOM. Bolloré, il a perdu ses 8 quand même, hein. Apparemment, ça l'a moyennement fait marrer. Hein. En échange, on les vire de la TNT, on les met, oui, on les met en télé satellitaire. Ah oui, on peut faire ça, ouais. Les chaînes d'opinion, c'est sur le satellite. C'est un peu raide. Donc, pourquoi tu n'es pas soumis aux règles de la pluralité? Parce que je suis sur Internet. Et qu'Internet, comme la presse écrite, ne sont pas soumis aux règles d'égalité et d'équité de temps de parole pendant les campagnes électorales, et ce, pour des raisons techniques. Il nous reste 8 minutes avant le début de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous l'expliquer, mais je vais vous l'expliquer quand même. La télé et la radio ont une particularité, c'est que ce sont des médias à canaux limités. Pour émettre, vous devez avoir une fréquence. Vous ne pouvez pas émettre sur la fréquence de quelqu'un d'autre, chacun sa fréquence, et les fréquences sont attribuées par une autorité qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. À partir du moment où l'ARCOM vous attribue une fréquence, vous êtes le seul autorisé à émettre sur cette fréquence. Canal de diffusion, fréquence pour les radios, etc. Tout ça, c'est la même chose. L'implication de ce que je viens de dire, c'est qu'il y a un nombre limité de fréquences disponibles. Vous ne pouvez pas créer une chaîne de télévision supplémentaire juste parce que vous avez envie et que vous avez de l'argent, etc. Non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas créer une station de radio supplémentaire. Non, vous ne pouvez pas. Vous devez avoir une fréquence qui vous est allouée. Dès lors, quand on est en campagne électorale, se pose un problème pour les candidats à l'élection. C'est qu'on peut avoir des asymétries de temps de parole entre les candidats avec des candidats qui n'ont pas la possibilité de créer leur propre chaîne de télévision pour porter leur propre parole. Donc, on a créé des lois sur l'équité et l'égalité des temps de parole pendant les campagnes électorales, de manière à garantir un accès juste pour les candidats à du temps d'antenne sur les chaînes de télévision et les stations de radio. Dans la presse écrite, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'un candidat qui n'est pas content de son manque de temps de parole dans les pages du Figaro, de Libération, de l'Humanité, peu importe le journal, il a la possibilité de créer son propre journal. Il a la possibilité d'éditer un tract. Il a la possibilité de publier. Tout le monde peut le publier. Principe de la liberté de la presse. Donc, en fait, vous ne pouvez pas exiger du Figaro qu'il vous donne du temps de parole. Figaro, il va te répondre, bah, t'as qu'à faire ton journal, frère, démerde-toi. Et il a le droit de vous répondre ça. Et bah, sur Internet, c'est pareil que la presse écrite. Il n'y a pas de limite technique à la création de nouvelles chaînes Twitch, de nouvelles chaînes YouTube, de nouveaux comptes Twitter, de nouveaux blogs, de nouveaux je ne sais pas quoi. Vous pouvez vous exprimer sur Internet. Si vous n'êtes pas satisfait d'une chaîne, bah, créez la vôtre. Principe de liberté. Voilà pourquoi il n'y a pas d'égalité et d'équité de temps de parole sur Internet, et voilà pourquoi il n'y en aura jamais. Merci Tazul. Voilà, j'ai essayé de faire court. Ouais, je vous ai fait la version courte. Autre argument, non j'en rajoute un quand même, pour définitivement enterrer cette idée à la con, autre argument qui explique pourquoi il n'y a pas d'égalité de temps de parole sur Internet. À la télévision et à la radio, la règle d'équité, d'égalité de temps de parole, s'applique à tout le monde. Ça paraît évident, mais c'est important de le rappeler. Toutes les chaînes de télévision, sans exception, sont tenues
de respecter les règles d'équité, d'égalité, de temps de parole pendant les campagnes électorales. C'est normal, c'est la moindre des justices que de dire que la règle vaut pour tout le monde, sinon ça devient n'importe quoi. Tu commences à faire une asymétrie entre les chaînes, il y en a qui ont le droit, il y en a qui n'ont pas le droit et tout. C'est absurde, ça n'aurait pas de sens. Donc, bon, c'est comme ça que ça marche. Maintenant, si vous transposez ça sur Internet, si vous créez une règle demain qui dit que tous les contenus sur Internet doivent se plier à une diversité d'opinions, de temps de parole, d'équité, d'égalité, de je sais pas quoi, ça veut dire que ça concernera ma chaîne, ça concernera les autres chaînes YouTube, ça concernera les chaînes YouTube des partis politiques, le site internet de l'Élysée. Non mais c'est absurde, enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Vous imaginez le compte Twitter du Rassemblement National qui tweet des trucs en faveur de Jean-Luc Mélenchon pour rééquilibrer un peu? Genre non en fait, évidemment, c'est une atteinte grave à la liberté, donc bien sûr que non, ça n'arrivera jamais. Donc le statut de ma chaîne Twitch, c'est le statut de toutes les autres chaînes Twitch. Je suis soumis aux mêmes règles que toutes les autres chaînes Twitch, sans exception. Et si une règle s'applique à moi, elle doit s'appliquer à tout le monde, y compris aux chaînes Twitch de partis politiques, de députés, etc. C'est absurde. Pourrait y avoir un certain nombre de règles à partir d'un certain nombre de viewers, comme il y a des contraintes supplémentaires pour les entreprises qui ont plus d'un certain nombre de salariés, c'est pas absurde. Ah donc c'est le nombre de viewers qui fait la règle. Bah ça va, moi je serai en dessous de ton plancher. Marine Le Pen sera au-dessus. Ça me va, vas-y, si tu veux contraindre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen à se publier l'un l'autre. Vas-y, bah, si tu veux. Concernant les chaînes Twitch, YouTube ou autres des médias classiques, ils peuvent faire ce qu'ils veulent alors. Ouais. Vous n'êtes pas tenu. Vous là, vous qui écrivez dans le chat, vous êtes libre d'écrire dans mon chat. Vous êtes libre. Vous n'êtes pas tenu de respecter une équité de temps de parole, de je sais pas quoi, de représentativité des opinions. Non, vous êtes libre. Dites ce que vous avez envie de dire. Soyez tranquille. Évidemment qu'il y a des règles. Les règles de la loi pour commencer. Les règles de Twitch ensuite et les règles de ma chaîne ensuite. Mais bien sûr, vous êtes libre. Et sur votre chaîne YouTube, si vous ne voulez pas inviter l'extrême gauche, vous n'invitez pas l'extrême gauche. Vous avez le droit. Et heureusement, vous êtes libre. Il n'y a pas de souci. C'est votre liberté. Vous faites ce que vous voulez. Libre, tant que c'est pas le service public qui refuse d'inviter quelqu'un, c'est OK. Donc par exemple, le fait que le service public n'invite jamais de pédophiles pour parler de l'âge de majorité sexuelle, ça te choque ? Non mais je sais pas, il y a un moment, si on joue vraiment la règle de l'égalité et de la diversité des opinions, si ça devient la nouvelle méta d'estimer que toutes les opinions se valent, tous les avis sont à mettre à équidistance les uns des autres, allons-y. Merci Joe. Non, c'est pas du sophisme. Non, c'est pas du sophisme, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve d'entendre des journalistes dire « Moi, j'invite tout le monde ». C'est faux, c'est factuellement faux, tu n'invites pas tout le monde, c'est pas vrai. T'invites pas de nazis, t'invites pas de pédophiles, t'invites pas de terroristes, t'invites pas... En fait, c'est pas vrai. Tu as des règles. On a tous des règles. C'est normal. Il y a des bornes morales, il y a des bornes légales, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne veut pas faire, etc. Donc arrêtez de dire j'invite tout le monde. Moi, je suis hyper respectueux de l'opinion de tout le monde. C'est faux. C'est pas vrai. Donc il y a un moment, non, tout se vaut pas. Tout n'est pas égal à tout. Mais je sais, j'ai parfaitement conscience d'être en minorité dans ce monde dans lequel, effectivement, tout se vaut. C'est la nouvelle méta. Tout est égal à tout.
Tout le monde doit avoir la parole. C'est devenu ça, la nouvelle liberté. C'est formidable, c'est extraordinaire. Et les antisémites, les nazis, les misogynes, ils ont le droit de parler, c'est leur liberté. Après tout, il faut les respecter, c'est très important. Ok. Tout se vaut sauf l'extrême gauche. Eh bien, n'invite pas l'extrême gauche. Tu en as le droit. Profites-en. La séance va commencer, mesdames et messieurs. On est en direct de l'Assemblée nationale pour la séance des questions d'actualité au gouvernement. La présidente Yael Braun-Pivet est en train de se diriger vers le perchoir pour présider la séance. Je vérifie le son, c'est bon.
Bonjour. Séance est ouverte.
Très bien.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement.
Formidable.
La première va être posée par Monsieur Fabien Di Filippo pour le groupe Droite Républicaine.
Fabien Di Filippo, il est député de Moselle.
Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre et concerne le respect de la parole donnée. Tout d'abord, le respect de la parole de la France, et je le souligne, en cette journée très spéciale où le combat que mène la droite républicaine depuis des années contre le Mercosur a connu une petite victoire avec le vote du Parlement européen qui renvoie ses accords devant la Cour de justice de l'Union européenne. Monsieur le Premier ministre, il faudra tenir les engagements de la France jusqu'au bout pour empêcher son application si dommageable aux agriculteurs français. La parole de l'État, elle est importante aussi au niveau local, avec la question du méga rassemblement des gens du voyage à Gros-Tanquin. 6 000 caravanes, plus de 26 000 personnes. Et vous le savez, avant vous, le gouvernement a reconnu à plusieurs reprises, dans son expression publique, c'était 4 premiers ministres et ministres différents, l'inadaptation de ce site à l'accueil d'un tel rassemblement. Chaque édition mobilise des moyens financiers humains colossaux, notamment en matière de sécurité et de force de l'ordre, mais génère malgré tout des déjections, des nuisances, des dégradations visibles pendant des années qui alimentent l'exaspération croissante de la population et des élus. Lors de son déplacement sur le site, le 26 août dernier, M. Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur, avait clairement indiqué que le rassemblement organisé à Gros-Tanquin serait le dernier et que les conséquences en seraient tirées, avec des engagements très clairs de votre part à tous les deux. C'est d'une part l'acquisition d'un terrain alternatif dès cette année pour ne plus avoir à y revenir, et c'est d'autre part l'annonce officielle de votre part, en tant que ministre des Armées, de la mobilisation de cette base de Gros-Tanquin à l'été 2026 pour des manœuvres militaires importantes rendant le site inutilisable à d'autres fins.
Fabien Diffi, Filippo, il est député de Moselle, du côté de Sarrebourg. Il a 39 ans, il est analyste d'affaires, il a été consultant auprès du cabinet KPMG. Il a travaillé comme cadre pour le groupe Auchan, puis dans une entreprise de distribution d'énergie. Il est membre de la branche la plus droitière des Républicains. Il est anti-immigration, anti-assistanat, conservateur. Il pose une question sur un rassemblement de gens du voyage, semble-t-il, en Moselle, dans sa circonscription. Et on écoute le ministre de l'Intérieur qui lui répond.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Effectivement, l'an passé, le rassemblement de l'association Vie et Lumière s'est déroulé sur le site que vous citez, à Gros-Tanquin, dans des conditions d'ailleurs qui avaient été organisées, je tiens à le saluer par mon prédécesseur, avec une mobilisation importante de militaires de la gendarmerie. Il y avait 400 gendarmes, une convention. Bon. Chaque année, d'ailleurs, ce rassemblement a lieu et il donne lieu à des discussions entre le ministre et les élus pour essayer de trouver un terrain et d'essayer d'avoir le consensus le plus important possible. Concernant le site de Gros-Tanquin, je vous confirme, monsieur le député, qu'un certain nombre d'engagements ont été pris par mon prédécesseur et il n'est pas dans mon intention, ni dans celle du gouvernement, ni dans celle du Premier ministre, de revenir sur cet engagement. Donc ce site n'accueillera pas le rassemblement cet été. Je puis vous le confirmer, vous l'affirmer, vous l'assurer. Nous sommes en prospection d'un autre site. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il me semble que d'autres activités sont prévues pendant cet été sur ce site, à commencer par des activités militaires. Donc je puis vous confirmer que la parole de l'État sera respectée, comme cela vous avait été dit par M. Bruno Retailleau et par le ministre des Armées de l'époque. Il n'y a aucune difficulté là-dessus et on continuera évidemment à être vigilant sur l'organisation de tous les rassemblements. Mais je ne peux que vous confirmer l'engagement qui a été pris par mon prédécesseur et je le reprends à mon compte. Il n'y aura pas de rassemblement à Gros-Tanquin cette année.
Merci. Bon, pas de rassemblement des gens du voyage.
Ministre de l'Intérieur, la parole est à présent à Madame Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social.
Sabrina Sebaï, députée des Hauts-de-Seine, du côté
Merci
de Nanterre.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Je vous ai alerté il y a plusieurs jours concernant le site mafrance.app qui cartographie les mosquées, les quartiers populaires, les populations musulmanes réelles ou supposées et les centres pour migrants. Un site qui parle de remigration, de défrancisation, de grand remplacement. Il invite les internautes à chercher, je cite, « la mosquée la plus proche, le centre de migrants le plus proche ». Il va même plus loin, puisqu'il cartographie le pourcentage de prénoms musulmans ou arabo-musulmans. Ce n'est ni de l'information, ni de la statistique. C'est du fichage. Ce site superpose délibérément islam, immigration et danger. Il transforme la religion musulmane en facteur de risque. Il désigne l'autre, noir, arabe, asiatique, comme un danger de grand remplacement. Et ce fichage n'intervient pas sans contexte. Alors que des centres de migrants sont attaqués et que des mosquées sont régulièrement prises pour cible, la parole raciste est devenue passage à l'acte, allant jusqu'au meurtre islamophobe d'Aboubakar Cissé assassiné dans une mosquée, jusqu'au meurtre raciste d'Hicham Mirawi de Jamel Benjabala simplement parce qu'arabe. Monsieur le ministre, la peur s'installe et il est à craindre que ce site facilite encore plus le passage à l'acte. Comment peut-on vivre en sécurité en France lorsqu'on est ciblé de la sorte ? Peut-on encore vivre en sécurité en France lorsqu'on est musulman, lorsqu'on est noir ou lorsqu'on est arabe ? L'extrême droite ne se contente plus d'attiser la haine de l'autre, désormais, elle le cartographie méthodiquement. Monsieur le ministre, on ne sait malheureusement que trop bien où a mené, dans notre histoire, l'antisémitisme, la xénophobie, le fichage de personnes, de leur lieu de vie, de leur lieu de culte, simplement selon leur religion supposée ou réelle. Le fichage religieux ou ethnique n'a jamais été une statistique, mais toujours un choix politique.
Sabrina Sebaï, elle a 44 ans, elle a été agente administrative à la mairie de Vitry-sur-Seine, elle a été caissière au supermarché Carrefour d'Ivry-sur-Seine en parallèle de ses études, militante à la Croix-Rouge et dans une association de promotion de la culture sud-coréenne.
La députée.
Elle pose une question sur ce site d'extrême droite, mafrance.app, qui répertorie les lieux de culte musulmans, entre autres.
Qui se présente comme un état des lieux de la France au niveau local, avec cinq thèmes qui sont retenus : l'insécurité, l'immigration, l'islamisation, la défrancisation, le wokisme. Et il se présente comme un site qui agrège un certain nombre de données issues de statistiques et de données publiques qui sont regroupées dans un indicateur, j'ouvre les guillemets, indice de changement général regroupant différents indices tels que l'indice d'insécurité, d'immigration, d'islamisation, de changement culturel, l'indice d'interventionnisme social. Il est associé à un autre compte X qui s'appelle « Où va ma France ?». Et donc vous avez introduit un article 40 dans le cadre du code de procédure pénale.
Un article 40, c'est une saisine du procureur pour des soupçons de délit.
Sur la plateforme Pharos, il en a fait 51 signalements depuis le début du mois de janvier et que son prédécesseur, puisqu'il y en avait un autre qui s'appelait « Où va ma France ?», a fait l'objet de 7 signalements avant de disparaître en septembre 2025. Cela semblait à première vue, je dis bien à première vue, dépourvu de tout contenu répréhensible en termes pénal pour Pharos, et ce qui fait qu'aucune action n'a été engagée. De la même façon qu'en termes de administratif, il n'y avait pas matière à engager le pouvoir coercitif qui est celui de la plateforme pour faire retirer ce contenu. Et donc, comme je vous l'avais expliqué, nous poursuivons l'analyse de ce site sur la thématique difficile à établir, mais on ne lâchera pas l'affaire, sur la thématique de la haine en ligne, qui est une qualification qui est particulièrement difficile à établir, mais nous n'allons pas lâcher l'affaire. Et je peux vous dire que le directeur général de la police nationale, en lien très étroit évidemment avec moi, a saisi le parquet national de la lutte, contre la haine en ligne, et ce dossier fait actuellement l'objet d'un examen extrêmement attentif.
Ok, donc le gouvernement a saisi lui aussi le procureur de son côté, le parquet.
Je ne lâcherai pas l'affaire. Ne lâcherai pas l'affaire.
Bon, on verra où tout ça atterrit à la fin.
Merci, Monsieur le Ministre. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de Français, de nos concitoyens comptent sur vous justement pour fermer ce site qui représente un réel danger. La peur est présente et je crains malheureusement des passages à l'acte. Donc on compte sur vous et on sera à votre disposition pour travailler ensemble à aller beaucoup plus loin et à fermer ce site.
Merci, Madame la députée.
On verra ce qu'en disent les enquêteurs pour l'instant.
Monsieur Jimmy Pain pour le groupe démocrate.
Jimmy Pain, il est député du Morbihan.
Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame Catherine Chabot, ministre de la Mer et de la Pêche, sur les mesures à mettre en place suite à l'entrée en vigueur du traité international sur la haute mer et de la biodiversité marine, également appelé BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Madame la Ministre, Le traité BBNJ, adopté en consensus par les États membres de l'Organisation des Nations Unies en juin 2023, complète la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer pour mieux prendre en compte les enjeux de protection des écosystèmes marins du fait de la progression des activités humaines en haute mer, c'est-à-dire à plus de 200 milles de nos côtes. Ce traité est constitué de quatre grands piliers. Le partage juste et équitable des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques marines, la création d'outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, l'obligation d'études d'impact pour les activités humaines, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines au profit des pays en développement. En 2021, déjà, l'Assemblée avait adopté à l'unanimité la résolution appelant à un accord ambitieux que nous avions présenté avec notre ancienne collègue de Polynésie française, Maïna Sage. Les députés ont ensuite adopté à l'unanimité le projet de loi de ratification du traité en mai 2024, suivi par le Sénat à la fin de la même année. Grâce au travail diplomatique de la France et au portage politique de nos ministres et de notre Parlement en amont de la Conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC, qui s'est tenue à Nice en juin dernier, le traité BBNJ a obtenu les 60 ratifications nécessaires à son entrée en vigueur qui a justement eu lieu samedi 17 janvier. C'est une très bonne nouvelle dont nous pouvons tous sincèrement nous réjouir.
Jimmy Pain, député du Morbihan, il est évidemment marin. Il a 63 ans, il est ancien skipper professionnel. Il est le fils d'un matelot du paquebot France. Il a travaillé pendant 16 ans comme marin-pêcheur. Il a fait sa carrière comme skipper, plusieurs fois champion de France de course large. Il a remporté la Transat à G2R et le Spi West France à 10 reprises. On est sur un marin, un vrai, qui pose une question sur le traité international sur la haute mer et la biodiversité.
Merci.
Il est coprésident du groupe d'études sur les grands fonds océaniques, entre autres.
De la mer et de la pêche.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés.
Maman, les petits bateaux.
Jimmy Pain, merci vraiment de cette question.
Bon, alors je précise qu'il est au modem et qu'elle aussi elle est au modem. Hein, donc tranquille, les bisous là.
En vigueur de ce traité historique pour protéger la biodiversité marine en haute mer. Et je tiens à vous féliciter collectivement, les parlementaires, les ministres aussi qui m'ont précédé et ceux qui ont aussi voilà, ceux du Quai d'Orsay et de tout. Et mais aussi Agnès Pannier-Runacher qui est ici dans l'hémicycle.
Qu'on embrasse.
Pour cette mobilisation. Ce traité met fin à un Far West qui caractérisait la haute mer et il instaure des règles partagées fondées sur la responsabilité et la protection de l'océan, bien commun de l'humanité. Nous pouvons nous réjouir car ce sont plus de 82 pays, exactement 82 pays et l'Union européenne, qui sont engagés dans cette démarche collective de ratification. À l'heure où le multilatéralisme est mis à mal, eh bien ces négociations sur l'océan participent à son maintien et participent au maintien de la paix. En tant que deuxième espace maritime mondial grâce à nos territoires ultramarins, la France avait légitimement un rôle moteur à jouer sur cette question et elle l'a fait. L'accueil en juin dernier de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice nous a permis d'accélérer son entrée en vigueur.
La dame qui est en train de parler, là, que vous écoutez, elle s'appelle Catherine Chabot. Elle est ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche. C'est elle-même une navigatrice. Elle a été la première femme à avoir terminé un tour du monde en solitaire et sans escale. C'était en 1997.
La France travaille à...
Et ensuite, elle a été présidente du Yacht Club de France.
En s'appuyant sur les scientifiques et les services de l'État, plusieurs enjeux sont pris en compte, environnementaux, économiques et géostratégiques. Des projets pilotes sont à l'étude. Je peux citer notamment l'île de Crozet, au sud aussi de l'Afrique du Sud, ou encore le dôme thermal. Pour conclure, Madame la Présidente, l'entrée en vigueur de ce traité est aussi un point de départ vers la première conférence des Nations Unies sur l'océan.
Merci, Madame la
Et
ministre.
Vous pouvez compter sur notre pleine mobilisation.
Vive les bateaux,
beaucoup,
vive la mer, vive les poissons.
La parole est à présent à Monsieur Laurent Mazzori pour le groupe Lyot.
Laurent Mazzori, député des Yvelines.
Ma question s'adresse au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Lors de la première lecture du PLF, notre collègue Jean-René Cazeneuve avait déposé des amendements visant à faire passer la taxe GAFAM à 15%, puis à 6%, ce dernier taux ayant d'ailleurs été adopté par notre Assemblée. Les menaces américaines de sanctionner la France n'ont alors pas tardé. Il a notamment été question, de leur côté, d'activer la célèbre section 300. 101 et de prendre des sanctions commerciales particulièrement agressives sur les produits français. Résultat, la hausse de la taxe GAFAM ne semble plus être à l'ordre du jour du PLF, mais les menaces du président Trump, elles, sont toujours d'actualité. Les pays européens souhaitent protéger le Groenland ? Menace d'augmentation des taxes douanières. Le président Macron ne veut pas rejoindre son conseil de la paix ? Menace de taxation de 200% sur les vins et les champagnes français. Les réponses commerciales agressives aux choix souverains diplomatiques ne sont plus acceptables. Les menaces extérieures contre notre souveraineté fiscale ne le sont pas non plus. Dans ce contexte, et alors qu'il faudra bientôt simplement un clignement d'œil mal interprété par le président Trump pour menacer nos exportations, quelles mesures le gouvernement compte-t-il prendre pour lutter contre les agressions commerciales américaines insoutenables, j'insiste, à l'échelle nationale.
Laurent Mazzori, député des Yvelines du côté de Trappes, il a 60 ans, il est ancien directeur de l'offre et du développement chez Cities Media, une société d'affichage publicitaire urbain. Membre de la Commission des Affaires étrangères, il pose une question sur les agressions fiscales de Trump envers l'Europe et la France.
Député Laurent Mazzori. Les déclarations du président des États-Unis, et cela a été rappelé tant par le président de la République que par le Premier ministre et Roland Lescure, ne sont pas acceptables. Et employer des menaces de coercition commerciale, comme cela est fait, pour jouer dans le cadre de relations diplomatiques, ne l'est pas plus. Et la France se doit de réagir à la hauteur de ce qu'est son histoire, de ce qu'est son rôle sur la situation internationale, et vous l'avez vu, a décidé d'avoir une attitude extrêmement forte et d'affirmer au président des États-Unis que le Groenland était une part du royaume du Danemark, que le Groenland appartenait aux Groenlandais et qu'il n'est pas question, sous quelque forme de menace que ce soit, que la France se taise. À partir de là, nous décidons d'agir et nous décidons d'agir avec le droit et dans le cadre du droit. Car finalement, je ne crois pas que l'on soit puissant en se mettant du côté du droit ou à côté du droit. Et à ce titre-là, vous avez fait part d'actions qui pouvaient être faites dans le cadre du budget, mais celui-ci est en train de se conclure. Et par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'outils dont le droit européen, que le droit européen nous permet d'utiliser. Il y a cette fameuse outil anti-coercition, que certains appellent le bazooka, et puis il y a aussi des mesures de droit de douane. Il y a tout ce qui est possible d'être utilisé dans le cadre d'un dialogue qui doit être un dialogue respectueux, mais en même temps sûr de nos valeurs et sûr de notre force.
Je vous remercie, monsieur le député.
Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Je ne voudrais pas que l'on s'égare et je ne voudrais pas que systématiquement on utilise l'Europe, et pourtant je suis très pro-européen, pour ne pas que nous prenions nous-mêmes nos propres responsabilités et nos propres risques. Nous avons des moyens nationaux, nous pouvons aussi aujourd'hui les activer. Il en est d'ailleurs de même dans un autre sujet, c'est le même sujet qu'en ce qui concerne les avoirs russes gelés ici en France. On n'est pas toujours obligé de se référer à la problématique européenne. L'Europe est une solution, ce n'est pas un problème, mais nous avons ici en France des moyens juridiques et légaux pour pouvoir mettre sur la table.
Ouais, après, est-ce que c'est intéressant d'agir seul alors qu'on peut agir en coordination avec nos voisins européens, quoi ? Passer à discuter, j'en sais rien.
Ne respecte que la force et nous sommes capables localement et nationalement de la montrer. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Je suis dubitatif, je vous avoue.
La parole est à présent Madame Félicie Gérard pour le groupe Horizon.
Félicie Gérard, députée du Nord.
Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à la ministre de l'Action et des Comptes Publics. Madame la ministre, afin de sortir notre pays de l'impasse budgétaire, le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la partie recettes du budget de l'État. Donner un budget à notre pays, redonner de la stabilité et de la visibilité au monde économique était réclamé par les Français et par nos chefs d'entreprise. Le Premier ministre a réaffirmé l'objectif d'un déficit limité à 5% du PIB.
Ah.
Pour le groupe Horizon Indépendant, cet objectif est une condition non négociable pour la crédibilité et pour la souveraineté de notre pays. Mais un objectif n'a de valeur que s'il est sincère. Et à ce stade, Madame la Ministre, la sincérité de votre budget nous interroge. En effet, le texte final porte la trace de renoncements successifs imposés par la menace de censure brandie par les socialistes. Premièrement, des dépenses pérennes ont été créées pour plusieurs milliards d'euros. Or, leur financement repose en grande partie sur des ressources temporaires, notamment via la surtaxe à l'impôt sur les sociétés. Ces mesures sont de véritables bombes à retardement fiscal. Deuxièmement, les économies de long terme, qui sont pourtant essentielles pour notre pays, ont été écartées pour satisfaire les exigences de la gauche, et tout cela en sortant le chéquier magique de la dépense publique. Enfin, les réserves de précaution des ministères devraient être ponctionnées dès le début de l'année pour compenser des cadeaux politiques à court terme, alors qu'elles sont censées constituer un recours de dernière minute. Aussi, Madame la Ministre, comprenez nos interrogations.
Le budget est trop à gauche. Ça commence à être difficile à avaler pour les députés Horizon et pour la droite. Félicie Gérard, députée du Nord, elle a 51 ans, elle est chef de projet auprès d'Enelis. Elle a été militante associative dans le mouvement des scouts et dans l'aide aux enfants gravement malades. Elle est passée de l'UDI à LREM avant de rejoindre Horizon à la création du mouvement en 2021.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la députée.
Et ouais, ça fait grincer des dents le budget. Ça fait grincer des dents le budget parmi la majorité. On écoute Amélie de Montchalin qui va essayer de rassurer ses partisans.
Il y a les questions budgétaires. Alors je vais mettre la politique de côté et je vais vous parler des questions budgétaires. En 2025, nous avions dit que nous ferions 5-4. Pas nous, gouvernement, mais vous, par le compromis qui avait déjà été trouvé, notamment déjà avec les forces de gauche républicaine. On avait dit 5-4. J'ai fait 5-4 en tant que ministre et je peux vous dire qu'aujourd'hui, devant vous, c'est donc la même ministre avec les mêmes services et la même méthode. Donc si nous disons 5, eh bien nous allons nous organiser avec vous et avec le pays pour faire 5% de déficit. Deuxième élément, et je crois que c'est important, la sincérité, c'est trois choses. D'abord, c'est les hypothèses de construction du budget. Elles ont été présentées au Conseil aux finances publiques, qui est une instance indépendante. Elles ont été validées. Certains avaient des doutes sur la croissance. Depuis, le FMI et tout le consensus économiste dit que nous aurons 1% de croissance. C'est notre prévision. La sincérité ensuite, ce sont les tableaux qui vous sont présentés. Hier, au 49.3, mise à jour de nouveau vendredi. Qu'est-ce qu'ils disent, ces tableaux? La dépense publique va baisser de 56,8% à 56,6% du PIB. C'est donc une baisse de 0,2 points de PIB. Il dit, ces tableaux, que le taux de prélèvement obligatoire sera de 43,9%, c'est-à-dire moins qu'en 2019. Et ce que dit ces tableaux, et je ne veux ici que jamais ne soit remis en cause le sérieux des équipes qui travaillent sous mon administration et sous ma tutelle, ces tableaux vous disent que le déficit est à 5%, et s'il est écrit 5%, la sincérité de ce tableau ne peut pas être mise en question. Troisième élément de la sincérité, c'est le suivi. Quoi qu'il arrive, comme l'an dernier, je m'engage à ce qu'il y ait une transparence totale avec vous, parlementaires, avec les organisations patronales, syndicales, les représentants des collectivités de la sécurité sociale, avec des comités d'alerte où nous mettons tout sur la table. S'il y a des aléas nationaux ou internationaux, ils seront précisés. Si des décisions doivent être prises, elles seront prises. Si des ajustements doivent être faits, ils seront faits. Et je vous donne rendez-vous, Madame la députée, dès la mi-avril, où nous pourrons ensemble, avec tous ceux qui le souhaiteront, regarder comment se seront exécutés les trois premiers mois du budget de l'année.
Merci.
Au fond, respecter le budget, c'est se respecter aussi,
merci,
vous parlementaires, sur les engagements que vous avez pris. Je vous remercie.
Merci,
c'est un peu ballsy de dire ça à des députés qui hésitent.
Monsieur Emmanuel Morel, pour le groupe GDR.
Emmanuel Morel, député du Val d'Oise.
Monsieur le Premier ministre, il a fallu que Monsieur Donald Trump menace d'envahir le Groenland pour que les institutions européennes se réveillent enfin. Mais que de temps perdu face à une telle brutalité. Que de naïveté, que d'atermoiement, que de reculade. Trop de naïveté d'abord parce que depuis le funeste traité de Lisbonne et le transfert de toute la politique commerciale à Bruxelles, l'Union européenne reste finalement le seul continent à croire encore aux vertus du libre-échange généralisé qui crée pourtant bien des dégâts. Trop de reculade aussi parce que je pense que la Commission européenne n'aurait jamais dû signer un accord commercial en juillet avec les États-Unis d'Amérique et la France aurait dû condamner plus fermement cet accord honteux comme d'ailleurs j'ai eu l'honneur de proposer une résolution avec bien des collègues sur ces bancs. Je pense qu'on aurait dû le faire davantage. Parce que Madame von der Leyen, qui est toute à sa passion transatlantique, nous promettait de la stabilité et de la prévisibilité. En réalité, elle a juste encouragé Monsieur Trump à nous écraser davantage. Alors, il faut réagir, il faut contre-attaquer. Il y a une bonne nouvelle, c'est que le Parlement européen a suspendu le funeste accord de Turnberry. Ça, c'est bien. J'en profite d'ailleurs pour féliciter aussi les députés européens.
L'accord de Turnberry, c'était un accord commercial avec les États-Unis.
Une autre bonne nouvelle. Mais là, il faut contre-attaquer plus vite. Et au-delà de ce qui a été dit sur les instruments anti-coercition, ça n'est pas que l'augmentation des droits de douane. C'est l'exclusion des marchés publics, c'est la restriction des importations, c'est le contrôle des investissements étrangers.
Emmanuel Morel, il est député du Val-d'Oise, il a 52 ans, il est professeur de lettres modernes. Il a été cadre du Parti Socialiste, figure de la gauche du Parti Socialiste avec Marie-Noël Lindemann. Ils se sont barrés pour créer le Mouvement Républicain et Citoyen qui sera rejoint par la gauche républicaine et socialiste. Il a été député européen, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France. Il siège avec les communistes à l'Assemblée nationale. Et c'est évidemment un protectionniste.
La parole est à M. Sébastien Martin, ministre chargé de l'Industrie.
Alors, Donald Trump, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ?
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Emmanuel Morel, je crois que les réactions, en tout cas la réaction ou les déclarations du président américain, sans doute un peu contrairement à ce que vous venez de dire, conforte plutôt la position de la France qui consiste à essayer d'avoir une Europe qui sorte d'une certaine forme de naïveté sur un certain nombre de sujets. Et la voix de la France, lorsqu'il s'est agi de condamner fortement les propos du président des États-Unis ces derniers temps, et notamment sur le Groenland, à celle et celle qui a été en pointe sur ce combat. Et vous nous interpellez sur un certain nombre de questions. En tant que ministre de l'Industrie, il y a un certain nombre effectivement de sujets que nous portons au niveau européen pour que la ligne de conduite de la Commission européenne évolue et change. Qu'elle évolue et change, parce que d'un côté, nous ne pouvons pas considérer que ce qui fait notre force, c'est ce grand marché commun de 450 millions d'Européens et le laisser peut-être un peu trop ouvert à tout vent. Il faut que cela change. Parce que nous considérons que si nous voulons avoir une industrie forte au sein de l'Union européenne, il faut que nous mettions en place des principes de préférence européenne et de contenu local.
Lui, c'est Sébastien Martin, il est ministre délégué chargé de l'industrie.
Parce que nous considérons que face aux surcapacités chinoises, que face à l'invasion de certains produits chinois, il est nécessaire d'avoir des droits de douane et des protections ciblées contrairement à celles de M. Trump. Mais par contre, là où l'Union européenne ne doit pas changer, c'est qu'elle est forte de ses valeurs. Et c'est aussi sur la base des valeurs qu'elle est attaquée aujourd'hui par les États-Unis d'Amérique et peut-être par d'autres. Et donc c'est en respectant le droit, en respectant une Union européenne qui agit collectivement que nous serons plus forts face à cette menace.
Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR.
Olivier Fessa, député des Bouches-du-Rhône, Marseille.
Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement. L'occupation sans droit ni titre, le squat, n'est pas un sujet réglé, loin de là. Des associations qui donnent des cours de squat en ligne, des personnes âgées privées d'un loyer indispensable pour payer leur maison de retraite, des successions bloquées à défaut de pouvoir vendre un bien squatté, des particuliers qui ne peuvent plus payer leur crédit en cours. Je veux ici faire remonter l'exaspération et le sentiment d'injustice totale que nous entendons quotidiennement, toujours avec les mêmes mots, on marche sur la tête. Je parle aussi au nom de nombreux parlementaires qui partagent ce ressentiment et souhaitent attirer votre attention sur une ineptie. Les opérateurs d'eau, d'énergie, de téléphonie et d'accès à Internet ne vérifient pas la légitimité de l'occupation, contribuant à aider les occupants dépourvus de tout titre à s'installer durablement dans un logement. Alors un assureur ne peut pas assurer une voiture sans vérifier que le prospect est titulaire de la carte grise, mais un opérateur peut fournir de l'Internet et de l'électricité à un squatteur. À la demande du président Ciotti, préoccupé par la situation notamment à Nice, le groupe UDR va déposer une proposition de loi visant à interdire à tout opérateur, fournisseur d'électricité, d'eau, de gaz, opérateur téléphonique et fournisseur d'accès Internet, de contracter sans que le demandeur ne justifie d'un droit valable d'occupation, à savoir un bail, une attestation d'hébergement du propriétaire, un titre de propriété ou une décision judiciaire. Cette mesure est aussi soutenue par Franck Alizio, régulièrement interpellé sur le sujet à Marseille.
Olivier Fessa, député des Bouches-du-Rhône à Marseille, il a 57 ans, il est gérant d'une société de courtage en assurance. C'est un proche d'Éric Ciotti, déjà à l'époque des Républicains, il l'a suivi pour la création de l'UDR. Sa famille est propriétaire du terrain de camping Bon Porto à Calvaire-sur-Mer, station balnéaire du Var. Il pose une question sur le squat et il annonce que l'UDR va déposer une proposition de loi pour limiter le squat.
Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Vincent Jeanbrun, ministre de la Ville et du Logement.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, merci pour votre question car elle reflète effectivement un agacement, une frustration et probablement une colère très profonde dans notre pays parce qu'aujourd'hui un certain nombre de propriétaires se sentent volés, se sentent lésés car leur bien est squatté, occupé illégalement et nous devons, et c'est la mission que m'a confiée le Premier ministre, faire en sorte de redonner confiance à ces propriétaires pour qu'ils soient à nouveau mobilisés pour permettre à nos concitoyens d'avoir accès au logement. Ce choc de confiance, nous y travaillons, elle a déjà été débattue il y a quelques jours au Sénat à travers la PPL choc de la sénatrice Dominique Estrosi Sassone et nous continuerons à y travailler avec vigueur. J'espère que nous pourrons débattre autour d'un projet de loi dédié au logement pour faire en sorte qu'une bonne fois pour toutes, le message soit très clair. Nous n'autoriserons et nous n'accepterons aucun squat dans notre pays. Le ministre Kasbarian avait déjà permis des avancées significatives sur ce sujet. Nous pouvons aller beaucoup plus loin et vous pouvez compter sur moi, les Français peuvent compter sur moi pour faire en sorte que demain, les propriétaires ne soient plus volés de leurs biens. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à présent à madame Claire Marébeuil pour le Rassemblement national.
Claire Marébeuil, députée de l'Oise.
Ma question du côté de Beauvais. Madame la ministre de la Santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Le gouvernement n'est jamais à court d'idées pour faire la poche de nos compatriotes. Dans la série « Je ponctionne les familles », j'ai nommé le report de 14 ans à 18 ans de l'âge de majoration des allocations familiales. Après l'adoption du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026, le projet de décret gouvernemental prévoyant ce décalage constitue une attaque directe à l'encontre des familles françaises qui sont déjà bien souvent confrontées à de graves difficultés financières. Comment expliquer à des parents qui travaillent et qui malgré tout peinent à boucler leur budget que désormais ils devront attendre 4 années supplémentaires pour obtenir cette majoration d'allocation familiale alors que dans le même temps, le gouvernement continue de maintenir par exemple un dispositif d'AME dépassant le milliard d'euros servant à soigner la terre entière. Ce deux poids deux mesures est intolérable, injuste et profondément révoltant. À l'heure de surcroît où notre pays fait face à une grave crise de la natalité, avec pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale un nombre de naissances inférieur à celui des décès, votre volonté de vous attaquer aux familles est incompréhensible et contre-productive. Il est au contraire urgent de mettre en place une grande politique familiale afin de permettre à nos compatriotes qui ont des enfants et à ceux qui souhaitent en avoir de pouvoir concrétiser leurs projets sereinement. La mission d'information sur la natalité, dont je fais partie avec d'autres collègues parlementaires, remettra d'ailleurs très prochainement son rapport comportant plusieurs propositions. Alors, Madame la Ministre, ma question est simple. Quand cesserez-vous enfin de vous en prendre aux familles françaises qui ont impérativement besoin du soutien et de la protection de l'État?
Claire Marébeuil, députée de l'Oise, 67 ans, ancienne médecin généraliste. Elle a été adjointe à la maire de Beauvais. Le mois dernier, elle s'est déclarée candidate à la mairie de Bayeux. Elle pose une question sur les allocations familiales pour les familles françaises.
Vous posez à juste titre l'inquiétude.
Papa, maman, enfant, labrador, Renaud Sénic.
Du budget de la sécurité sociale dans lequel, effectivement, il y a un décalage de la majoration des allocations de 14 à 18 ans. Nous avons eu le débat dans cet hémicycle ensemble. Vous le savez aussi que cette mesure ne touche pas les parents en 2026, enfin les familles en 2026, mais bien celles qui arrivent en flux après. Cette donnée repose sur des données d'une étude de la DRES qui confirme que l'augmentation des dépenses liées à l'âge se situe plutôt à 18 ans. Et cette mesure, elle a aussi été proposée pour permettre d'un autre côté, dans le cadre de notre politique liée aux familles, du congé de naissance supplémentaire qui, comme vous l'avez voté, est mise en place pour l'année 2026 depuis les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier, qui est une mesure très attendue des familles, avec beaucoup de questions, puisque vous savez, autour de ce congé parental, les enfants, le congé pourra être pris à partir de juillet, mais pour tous les enfants nés en janvier 2026. Vous posez la question par ailleurs de la natalité, et vous avez raison que notre pays fait face à une transition démographique majeure. D'une part, le vieillissement de la population, d'autre part, la baisse de la natalité qui va nous poser et qui nous pose des questions ensemble sur comment nous financerons aussi notre protection sociale demain dans tous les champs. Mais au sujet de la natalité, j'aurai l'occasion très prochainement de pouvoir proposer des mesures fin janvier ou février sur ce sujet. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent Madame Anaï. Ah, Madame la députée, excusez-moi. Ah. Allez-y.
Oui, Madame la Ministre, gouverner, c'est prévoir. Vous n'avez rien anticipé. Comptez-vous enfin prendre, alors je l'espère, vous venez de l'annoncer, en compte l'avis des parlementaires sur ce sujet aussi important que la natalité et aussi important pour la France.
Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Anaïs Glomeur pour le groupe Ensemble pour la République.
Anaïs Glomeur, députée du Finistère, du côté de Quimper.
Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, depuis cette nuit, Quimper est de nouveau durement frappé par les eaux. L'Odé et le Ster ont atteint des seuils alarmants, plongeant le centre-ville et les zones riveraines dans une situation critique. Au-delà de ma circonscription, d'autres communes du Finistère et du Morbihan sont également touchées. Je tiens avant tout à saluer la mobilisation exemplaire des services de l'État, des sapeurs-pompiers et des agents municipaux qui luttent sans relâche sur le terrain. Mais derrière les images de rues inondées, il y a la détresse des commerçants et des artisans et des riverains. Pour beaucoup, c'est la crue de trop. D'autant qu'elle intervient dans un contexte de grande fragilité économique de nos centres-villes où de nombreux petits commerces voient déjà leur trésorerie mise à rude épreuve. En Bretagne, nous faisons face à une réalité géologique singulière. Sur notre socle granitique, les nappes phréatiques sont aujourd'hui saturées. La terre ne boit plus. Chaque précipitation se transforme immédiatement en ruissellement et en crue fulgurante. Le gouvernement a fait de la résilience territoriale une priorité, notamment à travers le Fonds vert. C'est une avancée majeure que je soutiens pleinement, mais l'urgence aujourd'hui est double. Elle est sécuritaire, bien sûr, mais elle est aussi et surtout économique. Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Pouvez-vous garantir aux Quimpérois une reconnaissance accélérée de l'état de catastrophe naturelle ?
Anaïs Glomeur, députée du Finistère, 52 ans, elle est masseuse kinésithérapeute, formatrice, spécialisée en appareillage orthopédique. Elle a été élue en 2017 face à Jean-Jacques Urvoas, tête de liste de La République En Marche à Quimper en 2020. Elle est de nouveau candidate pour 2026 à la mairie de Quimper. Voilà pourquoi elle pose une question sur les intempéries à Quimper.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, comme vous le savez, en l'occurrence...
Elle a été basketteuse professionnelle aussi au club de Brest, mais on s'en fout.
Précisément, que ce soit des particuliers, des entreprises, des collectivités locales, vise à prendre en charge, à indemniser un certain nombre de dommages matériels directs qui ne sont pas assurables, ainsi qu'à indemniser les pertes d'exploitation lorsque l'état de catastrophe naturelle est constaté. C'est un régime de solidarité, de responsabilité, d'équité et qui couvre les événements naturels d'intensité anormale, ce qui est examiné au vu d'un certain nombre de critères techniques et homogènes. Au cas d'espèce, donc c'est aux arrêtés, au maire, de saisir les préfets qui saisissent ensuite le gouvernement qui, lorsqu'il constate l'état de catastrophe naturelle, prend un arrêté ministériel. Donc il appartiendra évidemment d'examiner, au vu de ces demandes, la situation que vous avez décrite. Ce que je peux vous dire, actuellement, au moment où on se parle, l'épisode météorologique en cours...
Pour ceux qui ne le savent pas, un arrêté de catastrophe naturelle, ça permet, c'est technique, mais c'est important parce que ça permet de débloquer des moyens supplémentaires en urgence, notamment des moyens de l'État, des pompiers, ça permet aussi de débloquer des assurances pour rembourser les dégâts, accélérer les processus de je sais pas quoi pour la reconstruction, etc. etc. C'est assez important quand il y a des intempéries d'avoir un arrêté de catastrophe naturelle.
Et puis ce sont deux cours d'eau qui restent en vigilance. Donc à ce stade, Madame la députée, ce que je peux vous dire, c'est évidemment qu'on étudiera avec beaucoup d'attention les demandes qui seront formulées par les maires. Je ne peux évidemment à ce stade prendre aucun engagement. Il y a des critères très stricts qui s'appliquent. Il faut vraiment que l'événement soit d'une intensité anormale, j'insiste là-dessus. Mais en tout cas, compter sur ma détermination nomination à procéder à un examen extrêmement vigilant des conditions et une réponse vous sera adressée évidemment très vite. J'ajoute qu'il y a une commission interministérielle qui est saisie et qui examine très clairement les conditions ou non pour pouvoir bénéficier de ce système. Merci Madame la députée.
Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à présent à Monsieur Sébastien Delogu pour la France Insoumise.
Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, Marseille.
Madame la Présidente, Monsieur le Premier Ministre, y a-t-il eu, oui ou non, 387 kilos de cocaïne achetés par l'État puis revendus à l'insu des magistrats suite à l'échec d'une opération? Et est-il vrai qu'une partie de l'argent de la vente aurait été cachée dans les locaux de la police?
Je vous remercie, Monsieur le député. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez.
Bon, on m'a rien vendu. J'ai rien acheté.
Monsieur le député, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, je vois que vous êtes gardé beaucoup de temps. Alors, de manière tout à fait inhabituelle, je vais vous renvoyer moi une question, Monsieur le député. D'abord, je vais vous dire, il y a une affaire. Il y a l'affaire Trident. Il y a l'affaire Trident pour laquelle l'inspection générale de la police nationale a été saisie. Il y a une enquête en cours sur une livraison surveillée sur laquelle il y a eu un certain nombre de difficultés. Il y a effectivement eu des kilos de cocaïne qui ont disparu. Il y a une enquête en cours. Est-ce que pour autant ça suffit à jeter l'opprobre sur l'ensemble des fonctionnaires de police qui luttent contre les trafics? Alors, monsieur le député, moi je vous pose une question. Vous qui aspirez à diriger la ville de Marseille, je vous pose une question simple. Est-ce que vous soutenez les policiers quand ils luttent contre les trafics de stupes? Et est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, le trafic de stupéfiants partout sur le territoire national et notamment à Marseille?
La balle est renvoyée par Laurent Nunez à Sébastien Delogu.
Monsieur le député, allez, s'il vous plaît.
Quand la presse d'extrême droite bolorisée m'attaque et m'accuse, vous faites le relais de la presse. Par contre, dès qu'il s'agit de reprendre l'excellente investigation de Mediapart sur l'opération Trident, vous n'avez plus de réseau. Je vous sens mal à l'aise, monsieur le ministre de l'Intérieur. Très mal à l'aise avec cette prétendue opération anti-drogue menée entre la Colombie et Marseille en 2023. Cette prétendue livraison surveillée de cocaïne pour permettre l'interpellation d'un trafiquant majeur de ce pays. Et tout cela pour quel résultat? Aucune cible principale et 387 kilos de cocaïne ont disparu dans la nature. Pourtant, la revente de cette même drogue a donné lieu à des échanges d'argent liquide entre les policiers et leurs sources. L'argent aurait circulé dans les locaux de la police et même caché dans un frigo selon l'enquête en cours. Car oui, il y a enquête en cours et dans ce dossier, l'ancienne chef de l'office anti-stupéfiant de Marseille et son adjoint ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire, interdits d'exercer, tout comme le capitaine de la police qui supervisait l'opération et deux autres policiers de l'OFAS qui ont été mis eux aussi en détention provisoire. Je vous le dis en toute sincérité, c'est vous qui êtes contre Marseille et un anti-police en ne protégeant pas ce système justement qui permet la corruption.
Sébastien Delogu, député des Bouches-du-Rhône, candidat à la mairie de Marseille. Il a 38 ans, il est ancien chauffeur de taxi, ancien garde du corps, ancien barman. Il a rejoint Jean-Luc Mélenchon en 2017 et il pose une question sur le scandale Trident révélé par Mediapart.
Et occupez-vous de sauver la police judiciaire et les policiers. N'essayez pas de me faire taire avec vos persécutions institutionnelles et judiciaires et perquisitionnelles et vos perquisitions ridicules à mon...
Merci, monsieur le député. Monsieur le ministre.
Monsieur le député, vous me trouvez mal à l'aise? Oui, je suis très mal à l'aise. Quand j'entends un député de la nation, à partir d'une affaire qui a été traitée de manière exemplaire par l'inspection générale de la police nationale, exemplaire. Il y a un certain nombre de fonctionnaires de police qui ont été mis en examen. Il y a une enquête en cours. Oui, je suis mal à l'aise quand j'entends un député de la Nation qui, à partir de cette affaire, jette le discrédit sur les fonctionnaires de la police nationale qui luttent contre le trafic de stupéfiants à Marseille. Nous avons engagé une politique résolue de lutte contre les trafics qui nous conduit à démanteler les points de deal, à mener des actions tous les jours sur le territoire de la commune de Marseille. Et nous serions heureux d'avoir le soutien d'un certain nombre d'élus de la République dans cette action, ce qui n'est pas toujours le cas, monsieur le député, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous poursuivrons avec détermination cette action, soyez-en assurés.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à Et enfin, à monsieur Paul Christophe pour le groupe socialiste.
Enfin, enfin, Paul Christophe, merci, député de la Drôme.
Ma question s'adresse à monsieur le ministre chargé de l'industrie. Monsieur le ministre, le 8 janvier dernier, Polytechnil, filiale française du groupe belge Domo Chemicals, a été placée en redressement judiciaire. Entreprise industrielle historique de mon département, spécialisée dans la production de fibres textiles de haute qualité, nécessaires pour l'industrie automobile et pour d'autres usages très stratégiques, Polytechnil emploie près de 500 salariés en France et une centaine sur le site de Valence dans la Drôme. Depuis le 8 janvier dernier, les salariés des deux sites, de Valence et de Saint-Fons, vivent dans l'angoisse de la perte de leur emploi. Cette angoisse est d'autant plus difficile à vivre que rien ne laissait présager cette situation. Positionné comme l'un des leaders européens du polyamide, Polytechnil s'appuie sur un outil industriel d'ampleur et des installations qui sont classées. À Valence, les salariés s'interrogent. Pourquoi la gravité de la situation a-t-elle été découverte si tard au mois de décembre ? Des erreurs de gestion ont-elles été cachées ? Comment la situation financière peut-elle être si dégradée alors que Polytechnil a reçu des fonds de la part de l'État ces dernières années ? À l'heure où la France est confrontée à des tensions géopolitiques et commerciales inédites depuis 1945, et cela a été rappelé plus tôt dans la séance, la consolidation de nos capacités de production nationale et la sécurisation de nos filières industrielles et stratégiques doivent constituer des priorités politiques absolues, sous peine d'affaiblir la souveraineté de notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Comment l'État entend protéger les salariés de Polytechnil qui sont aujourd'hui dans l'angoisse ?
Paul Christophe, député de la Drôme, il a 38 ans. Il est ancien conseiller de Patrick Kanner, qui était le ministre socialiste de la ville, de la jeunesse et des sports. Il est candidat à la mairie de Valence pour les municipales de 2026. Et il s'inquiète de la fermeture d'un site dans sa circonscription.
Merci, Madame la Présidente. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Paul Christophe, vous souhaitez appeler mon attention sur la situation du groupe Polytechnil, vous l'avez rappelé, qui dispose en France de deux sites, l'un à Valence et l'autre à Saint-Fons, et spécialisé dans la production de polyamide. Vous l'avez indiqué, la société aujourd'hui se retrouve en difficulté et mise en redressement judiciaire du fait, non pas forcément de difficultés que rencontrent les sites, mais de l'insolvabilité de sa maison mère, Domo Chemicals. Alors, une période d'observation a été fixée par le juge, et cette période d'observation est de 6 mois. Et je vais vous dire quelles sont nos priorités. La première des priorités, c'est tout d'abord que s'assurer que la situation de trésorerie nécessaire à cette période d'observation, et ce sur quoi nos services travaillent en priorité, permettent justement d'avoir ce délai de 6 mois, éventuellement peut-être un peu plus, pour assurer un projet de reprise, parce que c'est à cela que nous travaillons, dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que c'est ce qui doit toutes et tous nous animer. En parallèle de cela, bien évidemment, nos services travaillent avec notamment les organisations syndicales pour les accompagner dans ce moment difficile et avoir une vision assez objective de la situation et envisager tous les scénarios. Mais celui que nous envisageons en priorité, c'est bien évidemment celui d'une reprise, car il y a des savoir-faire, une qualité de production, et je pense que vous la connaissez puisque c'est sur votre territoire. Enfin, vous m'interrogez sur l'argent public qui aurait été touché par la société. Alors, à ma connaissance, mais si vous disposez d'autres informations, je suis preneur, à ma connaissance, cette société n'a pas bénéficié de soutien d'argent public, en tout cas, ces dernières années. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur le député.
Je vais revenir vers vous sur ces éléments, monsieur le ministre.
Très bien, très bien. Faisons ça. Envoyez-moi un mail.
Le gouvernement est terminé. J'informe l'Assemblée que j'ai pris acte hier, mardi 20 janvier 2026, du dépôt de 2 motions de censure en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, le Premier ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur la dotation en nouvelle lecture de la première partie du projet de loi de finances pour 2026. L'une, déposée à 17h07 par Mme Mathilde Panot, Mme Cyrielle Châtelain, M. Stéphane Peu et 108 membres de l'Assemblée nationale. L'autre, déposée à 17h19 par Mme Marine Le Pen, M. Éric Ciotti et 102 députés. La conférence des présidents est convoquée ce vendredi à 8h45 pour organiser la discussion de ces motions.
Ah !
Prochaine séance demain à 9h, 10 propositions de loi et de résolution dans le cadre de la journée réservée du groupe droite républicaine.
D'accord, donc demain c'est la niche parlementaire LR. Et donc le bureau de l'Assemblée nationale se réunit vendredi pour déterminer quand est-ce qu'ils examineront les motions de censure. Ça veut dire qu'elles ne seront pas examinées vendredi. Donc ça veut dire que la prog du streamer Jean Massier est fausse. Bah oui, parce que ce connard, il a annoncé que ça serait discuté vendredi matin. Or, ce ne sera pas le cas. Terrible. Fuck it. Ce sera streamé. Quand ce sera streamé, vous vous démerdez. Voilà, c'est comme ça, pas autrement. Hein. Voilà, ce sera lundi, ce sera mardi, je sais pas. On verra. Jean Massier destitution, je l'ai toujours dit, putain. On verra. J'ai mis un réveil à cause de toi. Alors, vous maintenez votre réveil vendredi matin. Hein. Vous maintenez votre réveil vendredi matin. Ça ne servira à rien, mais vous serez réveillé. Ça me fera super plaisir de savoir que vous vous êtes tous réveillés. Pour rien. La séance de questions d'actualité au gouvernement est terminée. Alors, quelques petits points. Pareil, j'ai vu des questions dans le chat. Je vais vous répondre. Des questions techniques. Le droit de réplique. En fait, les députés ont 2 minutes de temps de parole pour poser leurs questions et les ministres ont 2 minutes de temps de parole pour répondre aux questions. Lorsqu'un député n'a pas consommé la totalité de son temps de parole, il garde un petit reliquat de temps. Ça peut être quelques secondes, ça peut être 1 minute. Et il a le droit de l'utiliser en réplique à la réponse du ministre. OK ? Le ministre lui-même, s'il n'a pas consacré les 2 minutes de son temps de parole pour répondre à la question, peut également répliquer à la réplique. Mais après, on s'arrête là. Il n'y a pas de réplique à la réplique de la réplique. Ça, c'est... Non, c'est une réplique chacun et après, on passe à autre chose. Du coup, il y a des députés, alors notamment à la France Insoumise, parce que je vous avoue que c'est surtout les Insoumis que j'ai vu faire ça par le passé, comme Sébastien Delegu aujourd'hui, qui font une technique qui consiste à poser une question très courte au ministre, pour garder un maximum de reliquats de temps pour répliquer à la réponse du ministre et lui en mettre plein la gueule, etc. Machin. Mais Laurent Nunez, qui est loin d'être un con, il sait très très bien comment ça marche, il l'a déjà vu faire, donc il est en mode « T'inquiète, je la connais, tu vas pas me la faire, donc moi aussi je vais te répondre de manière assez courte, comme ça moi aussi je vais garder du temps pour te répondre. » C'est le jeu. Voilà ce qui s'est passé. C'est des choses qui arrivent de temps en temps, c'est pas très fréquent. Mais voilà aussi pourquoi parfois vous voyez un député qui réplique et un ministre qui réplique pas à la réplique. C'est juste que le ministre avait plus de temps de parole, c'est tout. Voilà. Quoi d'autre? Les tremblements. Ah, les tremblements. Il y a des députés qui tremblent. Quand ils posent leurs questions au gouvernement, à chaque fois, ça fait des réactions dans le chat. Mesdames et messieurs, vous apprendrez qu'un être humain de type Homo sapiens qui tient une feuille A4 dans sa main et qui parle en se tenant debout, il a la main qui tremble un peu. C'est normal, c'est des petits mouvements musculaires, de légers tremblements, ça n'a rien à voir avec le stress, l'anxiété, je ne sais pas quoi. Les tremblements de la main sont amplifiés par la feuille. Là, je bouge très très peu ma main et la feuille, elle bouge énormément. Voilà pourquoi on a l'impression que les députés ont la tremblote. Pas du tout, ils sont juste debout en train de tenir une feuille, c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas particulièrement de la trouille ou je sais pas quoi. C'est comme ça. Il y a des Homo sapiens dans le chat. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le troisième truc. Oui, les micros. Les micros, à la fin. Quand les députés ont fini de poser leurs questions, vous les voyez replier le micro. Vous les voyez tordre le micro pour le mettre vers le bas. Ça, c'est assez impressionnant. On se demande pourquoi ils font ça. En fait, au début, je croyais que c'était à cause du son. Parce que comme les micros sont directionnels, je croyais que les micros enregistraient la voix des députés pendant qu'ils parlaient, discutaient, machin. Et que donc, ils n'avaient pas envie d'être enregistrés et qu'ils préféraient avoir le micro vers le bas. En fait, ce n'est pas ça. C'est encore plus simple que ça. C'est juste que si tu laisses le micro vers le haut, ça cache la vue. C'est juste ça. C'est aussi bête que ça. Donc c'est pour ça qu'il replie le micro pour pouvoir voir tranquillement l'hémicycle, le gouvernement, le machin, la séance. Et tous les députés font ça parce que c'est l'habitude. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Est-ce que j'ai répondu à tout? Je crois. Je pensais que c'était pour dropper un mic. Non, même pas. Non, non. Alors, ça fait un peu classe. Non, mais je te l'accorde. Ça fait un peu classe. Genre, j'ai dead ça. Je t'éclate le micro, machin. Blah, je m'en vais comme un prince et tout. Non. Non, c'est pas ça. Non, non, c'est pas ça.
Oui, il y avait quelqu'un qui parlait de gauche républicaine. Alors, en fait, je me suis trompé parce que j'ai pas entendu, mais la ministre a utilisé l'expression gauche républicaine pour décrire les socialistes qui vont s'abstenir de voter le budget, par opposition aux députés de gauche pas républicains que sont les insoumis dans l'esprit du gouvernement. Oui, bon, bah ça, c'est leur manière à eux de juger le truc. OSEF. Non, je pensais à un autre truc. C'est je pensais que la personne dans le chat parlait du groupe GDR. Le groupe GDR, c'est le groupe de la gauche démocrate et républicaine. GDR. La gauche démocrate et républicaine, historiquement, c'est le groupe communiste à l'Assemblée nationale. C'est le groupe communiste. Il y a un groupe communiste à l'Assemblée depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, c'est aussi un groupe communiste qui est élargi à des députés d'outre-mer qui ne sont pas particulièrement communistes ou qui peuvent avoir des sympathies pour le Parti communiste, mais qui font un groupe avec les communistes parce qu'ils sont d'accord avec eux. Donc, let's go, quoi. Donc, en gros, le groupe GDR, c'est le groupe Communist and Friends. Merci Flo. Communist and Friends d'Outre-mer. Non, l'anecdote que je voulais vous raconter, c'est une histoire vraie, c'est lorsque le groupe Les Républicains a été créé, c'était en quelle année? Est-ce qu'il y en a dans le chat qui se souviennent en quelle année est-ce que l'UMP est devenu Les Républicains? C'est 2016, 2015, 2014, dans ces eaux-là? Ouais, dans ces eaux-là, 2015, 2016, je sais plus. Ouais, bref, peu importe. À la limite, peu importe. L'UMP, donc l'UMP, c'était le parti historique de la droite française, issu de la fusion entre le RPR et l'UDF, je ne rentre pas dans le détail. L'UMP de Jacques Chirac, l'UMP de Nicolas Sarkozy, est devenu Les Républicains. Le parti politique est devenu Les Républicains. Bon, pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Sauf que le groupe UMP à l'Assemblée nationale a décidé, lui aussi, de se rebaptiser Groupe des Républicains. Et quand les Républicains à l'Assemblée ont dit « Vas-y, on s'appelle désormais les Républicains », les autres groupes de l'Assemblée nationale, ils l'ont très mal pris. Ils ont dit « Comment ça, frérot ? Comment ça, frérot ? À quelle heure ? Toi, t'es Républicain et nous, on l'est pas. D'où, de quoi, de quand ? Va bien te faire foutre. » Non mais vraiment, c'était en mode, mais ils se prennent pour qui? Les mecs à s'auto-appeler les Républicains, machin. Et donc, ce qui s'est passé à l'époque, en 2015, c'est que tous les groupes de l'Assemblée nationale ont décidé de changer leur nom pour rajouter le mot Républicain dedans. En mode nique. Et donc, c'est comme ça que le groupe socialiste est devenu le groupe socialiste citoyen et républicain, SRC, socialiste républicain et citoyen. Le groupe communiste est devenu le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Vraiment tous, hein, ils ont tous rajouté le mot républicain. Il est hors de question qu'on laisse la droite s'appeler toute seule les Républicains de l'Assemblée. Non mais oh ! Donc voilà. Donc ça vient de là. Ça vient de là, gauche républicaine, gauche démocrate et républicaine, etc. Ils ont vexé tout le monde. Ah ouais, bah c'est le jeu. C'est vraiment des gamineries. Non, bah, là, je te présente ça comme une anecdote un peu marrante, etc. Sur le moment, ils rigolaient pas du tout, les députés. Hein. Pour eux, c'était pas de la gamineries. Il y avait un problème d'éthique politique au fait de se revendiquer républicain quand t'as un groupe de droite, alors que la République, elle a été créée par la gauche. En gros, c'était ça l'argument. Enfin, donc voilà, c'est pas que des gamineries, quoi. Est-ce que les groupes peuvent être modifiés durant une législature? Oui, bien sûr. Oui, un groupe de députés peut être créé, supprimé, modifié pendant une législature. Oui. L'UDR? Non, l'UDR, c'est l'Union des droites pour la République. Oui, tu me diras, c'est proche. Oui, c'est pas très éloigné. L'Union des droites pour la République. Non, je disais l'UDR créé en cours de législature. Il n'a pas été créé en cours de législature, le groupe UDR, il a été créé en 2024, au début de la première, juste après les législatives. Si je dis pas de conneries. Les Républicains, c'est comme si on s'appelait le parti politique. Non, mais tu l'appelles comme tu veux, ton parti. T'as le droit de dire le parti des Français. Tu y mets ce que tu veux dedans, on s'en fout, c'est ton problème. Mais oui, t'as le droit. C'est comme le parti de la France, qui est un parti d'extrême droite. Je ne sais même pas si ça existe encore, d'ailleurs, le parti de la France. Le PDF. Les démocrates. Ouais, les démocrates. Bah oui, les démocrates, c'est le MoDem. C'est le mouvement démocrate. Est-ce qu'il y a des noms interdits? Bon, alors ça, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Je suppose que le bureau peut s'opposer à un nom. Je sais pas. Les saucisses républicaines. Ouais. Je pense que national-socialiste aurait du mal à passer. Je pense que s'il y en a qui essayent, ça risque de grincer des dents. Le parti des gens, le PDG. Les Français de proximité, les FDP. T'es con. tout ce qui concerne les religions doit être bloquant. Je sais pas si un groupe aurait pas le droit de s'appeler le groupe chrétien-démocrate. Le parti chrétien-démocrate existe. Même s'il est, il est groupusculaire, il existe. Est-ce qu'un groupe de députés pourrait s'appeler le groupe chrétien-démocrate ou groupe de la démocratie chrétienne? Parce que la démocratie chrétienne, c'est une histoire politique. C'est pas... Je sais pas, tiens, je suis curieux. République laïque, donc normalement ça devrait pas. Bah, pour des élus à l'Assemblée nationale, je suis d'accord avec toi. Ça me paraît très étrange, enfin, faudrait en discuter, je sais pas. Pour des raisons de laïcité. En revanche, un parti politique s'appelle comme il veut. Un parti politique n'a rien à voir avec la laïcité. Un parti politique, c'est une organisation privée qui a le droit de s'appeler chrétien-démocrate, démocratie chrétienne, musulman de France. Et le parti de Christine Boutin. Oui, c'est à ça que je faisais référence. Le parti chrétien-démocrate, le PCD, c'est le parti qu'a fondé Christine Boutin, qui était une ancienne ministre de Nicolas Sarkozy. Enfin, c'est un parti qui est un peu groupusculaire, le parti de Christine Boutin. Bon, on va pas se mentir, c'est pas un parti de masse. C'est pas grave, hein, y en a d'autres, des partis pas très grands. C'est pas un jugement de valeur dans l'absolu. J'ai pas trop compris l'histoire du député LFI avec la cocaïne et les flics. Moi non plus, je te l'avoue. En même temps, j'ai pas lu l'article de Mediapart. Il semblerait que plusieurs kilos de cocaïne aient disparu mystérieusement alors qu'ils étaient en possession de la police, qu'il y a des soupçons, ou alors c'est quelque chose qui a été révélé par Mediapart, comme quoi la police aurait revendu cette drogue. Bon, je pense pas qu'elle l'ait fait directement, mais j'en sais rien, je sais pas. Je comprends pas cette affaire. Il faut que je lise l'article de Mediapart. Chrétien-démocrate, ça gênerait pas avec la séparation des églises et de l'État? Pour un parti politique, non. Un parti politique, encore une fois, un parti politique, c'est une organisation privée. C'est une organisation de droit privé. C'est une association de citoyennes et citoyens libres qui ont le droit de s'appeler comme ils veulent. Ils font leur truc, ils font leur machin et tout, y compris avec des trucs religieux. La séparation de l'Église et de l'État, c'est bien la séparation des Églises et de l'État. L'État, les fonctionnaires, les élus. D'où mon interrogation sur le fait qu'un groupe de députés à l'Assemblée nationale puisse s'appeler chrétien quelque chose. Là, je vous avoue que j'ai un doute. Ça ne s'est jamais présenté à ma connaissance. Je ne sais pas ce qu'il en serait aujourd'hui. Si le cas se présentait, je suppose que ça donnerait lieu à une délibération en bureau de l'Assemblée nationale pour en décider, je ne sais pas. Mais effectivement, pour des raisons de neutralité, de séparation de l'église, des églises et de l'État, voilà. En Allemagne, le parti chrétien-démocrate allemand, c'est un des partis les plus importants. Sinon, bah évidemment, la social-démocratie, c'est d'abord allemand. C'est une histoire politique allemande, la social-démocratie. Les chrétiens-démocrates, je veux dire, pardon, excuse-moi, la démocratie chrétienne, comme on dit, c'est un mouvement de pensée, c'est un mouvement politique, c'est un mouvement philosophique, c'est un mouvement, c'est beaucoup de choses. Et c'est un très très grand parti, le parti chrétien-démocrate allemand, bien sûr, évidemment. Il y a une séparation de l'Église et de l'État en Allemagne. C'est une bonne question. Dans quelle mesure est-ce que l'Allemagne a une séparation? Est-ce que c'est dans la Constitution? Est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. Ça, c'est pas au même sens qu'en France. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Ça, la laïcité française, c'est très français. C'est Jean Jaurès, c'est Aristide Briand, c'est une histoire, c'est une philosophie, c'est une pensée de l'action de l'État, de la place de la foi, etc. C'est très spécifique. Et ça m'étonnerait qu'en Allemagne, il y ait une laïcité à la française, pour des raisons historiques. On déclare une religion aux impôts si on le souhaite et on paye une taxe qui est reversée à son culte. Ok, ah d'accord, je ne savais pas. Ah ouais, donc l'État perçoit une taxe volontaire qui sert à financer les cultes. Ok, d'accord. Ouais, bah non, on n'aurait pas ça en France. Et on peut se faire excommunier si on déclare pas. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Tu te retrouves en enfer parce que t'as pas coché une case dans ta déclaration d'impôt. Oh, merde. Oh, bah non, je vous jure, monsieur, j'ai voulu. J'ai pas compris. J'ai voulu optimiser fiscalement. Il y a pas mal de drama là-dessus d'ailleurs, avec des gens qui se retrouvent à payer de force pour les églises alors qu'ils ne sont pas croyants. Ah, il y a des débats en Allemagne là-dessus. Eh ben, nos amis allemands ont des problèmes que nous n'avons pas. On a des problèmes qu'ils n'ont pas non plus. C'est vrai. Non, c'est vrai. Faut reconnaître. On a notre propre lot de dinguerie et on n'a pas ce genre de truc. Mais j'avoue, ça me ferait chier. Ça me ferait chier. Payer un impôt qui va être versé à je sais pas quel culte. Je serais chafouin. Est-ce qu'un texte qui est dans la Constitution peut être retiré de la Constitution? Bien évidemment. Oui, tout à fait. Un texte qui est dans la Constitution peut être retiré de la Constitution à l'occasion d'une modification de la Constitution. On peut supprimer un article, on peut supprimer plein d'articles, on peut surtout les réécrire, les écrire différemment, les écrire mieux, etc. Mais oui, bien sûr. En Alsace, on paye pour les lieux de culte. Bah oui, il y a le concordat en Alsace. Ça me ferait chier. Mais non, mais ouais, en Alsace, il y a le concordat. Comment un changement ou une réécriture totale de la Constitution se passe au niveau du Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel s'est jugé incompétent pour connaître d'un texte constitutionnel voté par le pouvoir constituant. Le Conseil constitutionnel ne peut pas passer après le peuple pour corriger sa copie. C'est impossible. Le peuple est souverain. Quand le peuple décide, c'est comme ça et pas autrement. Et il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin. Hmm.
Moi, ça me va, même si je suis pas croyant, je trouve ça cool que les patrimoines religieux soient bien entretenus.
Bah, ouais. Non, mais ouais, je suis d'accord avec toi.
Après, si t'es maire d'une commune et que t'as une bonne partie de ton budget qui est englouti pour l'entretien d'une église dans laquelle personne ne va, je peux comprendre que tu sois chafouin. Que tu grognes un peu. Ouais. Relou. Mais au demeurant, je suis d'accord avec toi, bien sûr qu'il faut entretenir le patrimoine tout court, d'ailleurs religieux ou pas religieux, et que le patrimoine religieux en fait partie, donc les églises, les cathédrales. Je suis très content que la cathédrale Notre-Dame ait été refaite. Oui, bien sûr, c'est du patrimoine, c'est important, oui, il faut le faire. Est-ce que les églises appartiennent aux mairies ? Ouais. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la formulation du bordel, mais toutes les églises qui ont été construites avant 1905 appartiennent à l'État et sont mises à la disposition des cultes via des conventions en lien avec les mairies. Alors, comment ça marche précisément ? Je t'avoue que je ne sais pas. Les églises sont mieux entretenues que la plupart des lieux culturels français. Ouais, vas-y, mollo quand même. Ouais, non. Enfin, les clochers qui se pètent la gueule partout en France, les toits qui sont à refaire, les charpentes qui pourrissent. Enfin, je rejoins ta volonté d'avoir des lieux culturels tout court bien entretenus partout en France. Je rejoins. Mais j'irai pas jusqu'à mettre en concurrence avec les églises en disant que les églises, elles sont nickel chrome. C'est juste que ça coûte un bras les églises, mais grave. Non, mais ça coûte très cher. Une charpente d'église, je suis désolé, moi je suis pas charpentier, mais s'il faut faire un devis pour une charpente d'église, putain. Bah évidemment, ça coûte horriblement cher. Refaire la toiture, la plomberie et tout. Oh. L'isolement de la sacristie. Oh. L'isolation, pardon. Si on pouvait entretenir les hôpitaux avant les églises. Ouais, et si on pouvait ne pas déshabiller Paul pour habiller Pierre. Genre prendre du budget à côté, genre, enfin, tu vois, on peut aussi bien financer les hôpitaux et bien financer l'entretien des églises, tu vois, ça peut être souhaitable aussi. Le sur-mesure coûte un bras. Si on avait fait des églises standards, ça aurait été moins cher. C'est vrai, ça. Pourquoi ils n'ont pas fait ça au Moyen-Âge, les mecs? Pourquoi on n'a pas fait une espèce d'église en kit, livrée par camion, là? Tu prends une grue, tu mets les blocs et tout. Voilà, allez-y. Merci, Souyani. Comme ça, au moins de coup de vent. Oh non, les pauvres. Les églises préfabriquées. Comme les piscines tournesol, mais c'est vrai ça, les piscines tournesol, fierté française. Pourquoi on n'a pas fait ça? C'est pas la taille qui compte, c'est comment on l'utilise. Ouais. Absolument. On a bien fusionné les régions qu'ils fusionnent les églises. C'est peut-être simplement qu'il y a trop d'églises en France qui demandent un entretien alors qu'il y a peu de personnes qui s'y rendent. Bah oui, ça peut être une discussion difficile à avoir sur la priorisation des budgets en vue de l'usage, la réorientation de l'usage des lieux. C'est pas une discussion facile. C'est pas. J'ai jamais entendu. Je crois pas avoir entendu des débats politiques sur ce sujet, je vous avoue. Dans les campagnes, tu as un prêtre pour plusieurs églises. Oui, absolument. Absolument. Il y a des prêtres qui font une tournée et qui font des messes dans différentes églises, un jour par semaine ou un jour tous les 15 jours, ça arrive aussi. Et oui, bien sûr. La tournée des vins de messe. L'ubérisation du clergé. C'est le concept du patrimoine ? Non, c'est un truc un peu vieux et inutilisé qu'on garde pour conserver une identité et une trace du passé dans le présent. Pas seulement. Non, il y a du patrimoine qui est utilisé tous les jours. L'Assemblée nationale, le Palais Bourbon, c'est du patrimoine. Le Palais du Luxembourg au Sénat, c'est du patrimoine. Le Palais de l'Élysée, ce sont des palais de la République, c'est du patrimoine. Ils sont entretenus, ils sont maintenus, ben en fait, ils servent tous les jours. Ils sont utilisés tout le temps. Musée du Louvre, c'est un giga patrimoine. Et il y a des millions de visiteurs tous les ans. Donc, ça retire pas ce qu'il dit. Non, ça retire pas ce qu'il dit. Non, je questionne juste le côté inutilisé du patrimoine. Genre, c'est juste des vieilles pierres entassées qui servent à rien. Non, ça peut servir. Versailles, meilleure rentabilité historique du patrimoine. Ah, ça, faut reconnaître. Ça, faut reconnaître Versailles. La construction a coûté cher. Hein. J'aurais pas voulu payer mes impôts à l'époque. Hein. Ça a coûté un bras. Mais alors, par contre, la rentabilité du bordel. Ah ouais, non. Ah ouais, non, c'est. Oh non. Oh non, 300 ans plus tard, on dit merci. Hein. Oh, ça rapporte du fric. Hein. Oh, il est très content. On avait des rois prévoyants. On avait des rois prévoyants. Pensez à l'an 2000, les mecs. Pensez à l'an 2000 déjà à l'époque. Je vous jure que prendre le patrimoine pour un acquis, c'est un luxe qui se fait sentir quand tu visites les USA ou le Canada où il n'y a rien de plus de 200 ans. Oui, alors mais ça porte un nom, ce truc-là. Y a une, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, il y a une espèce d'histoire de complexe historique des États-Unis vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, pardon, où en fait, les Américains, ils sont très, très fiers de leur histoire, ils adorent leur histoire, les Américains, les enfants américains à l'école, ils apprennent par cœur les noms des présidents les uns après les autres, avec les dates, machin. Quand on visite les États-Unis, les Américains, ils créent des musées pour tout et rien. Dès qu'il y a eu un bout de truc, de vague événement qui s'est passé, les mecs, ils font un musée. Parce qu'en fait, ils ont assez peu d'histoire en comparaison de l'Europe. Et il y a des Américains qui sont jaloux de l'Europe, parce que nous, l'Europe... Je me souviens, il y avait un Américain dans une interview qui avait demandé à un Européen « Est-ce que c'est vrai que chez vous, en Europe, il y a des châteaux forts du Moyen-Âge qui sont laissés à l'abandon ?» Genre avec de la végétation qui pousse à l'intérieur et tout, machin. Et le mec, l'Européen, lui répond « Ah oui, c'est vrai, on en voit parfois sur le bord des routes, hein, ça arrive. » Et l'Américain, il n'en revenait pas. Il était en mode « Mais comment c'est possible ?» Comment vous pouvez comment vous pouvez laisser comme ça en ruine des bâtiments du Moyen-Âge, genre des châteaux forts. Mais c'est incroyable et tout. Alors la réponse, c'est on en a plein. On en a plein, on en a masse, ça nous coûte un bras, c'est déjà horrible et tout machin. Mais effectivement, pour un Américain, c'est dingue. Genre vraiment, l'Europe, c'est... T'as 2000 ans d'histoire, l'Empire romain, le Moyen-Âge européen. Les Américains, ils adorent. Les passionnés d'histoire américains, ils adorent. Ils trouvent ça incroyable. Voilà. Bon. On a tellement de chance. Mais en vrai, on a une chance incroyable. Non, mais c'est vrai, ils ont raison. On a une chance incroyable. On a une chance incroyable, quoi. Alors que nos amis américains, pas ouf. Et alors, dans ce genre-là... Non, mais dans ce genre-là... Dans ce genre-là, un jour, j'ai eu la chance de me rendre à Taïwan quand j'étais lycéen et étudiant. À deux reprises, je suis allé à Taïwan et j'ai visité le musée national de Taïwan sur l'histoire chinoise. Le musée en lui-même a une histoire incroyable et tout, mais à l'intérieur du musée, donc, tu as tout un truc sur l'histoire de la Chine. Et à un moment, sur un mur, tu avais une immense frise chronologique. T'avais une immense frise chronologique et tu pouvais marcher le long de la frise, comme de le long de la frise, tout en la lisant, machin. Donc moi, je regarde, jette un œil, c'est écrit en chinois et en anglais. Jette un œil, je ne comprends rien. Enfin, il y a des empereurs et des machins. Donc c'est une frise chronologique. Donc j'avance dans le temps, comme ça, je marche. J'avance dans le temps. Et à un moment, juste en dessous de la frise chinoise, il y a une autre frise qui commence. Et il y a un petit trait et il y a écrit « Naissance de Jésus ». Et je comprends qu'en fait, cette frise-là, c'est l'histoire de l'Europe qu'ils ont mise en dessous pour comparer. Du coup, je regarde derrière moi et je vois les mètres et les mètres que je viens de parcourir d'histoire chinoise. Ah ouais, d'accord. Ah oui, ok, non, d'accord. Ouais, donc la Chine, c'est un... Ouais, ok. On est sur du 6000 ans d'histoire. On est sur une dinguerie en termes d'histoire. Nous, les Européens, on se la pète avec nos châteaux forts, mais putain, les Chinois... Oh. Donc, ouais, bon. Et c'était assez intéressant comme claque à se prendre pour un Européen comme moi. C'est, ouais. C'est où que t'as vu ça? C'est au Musée National de Taïwan. Je suis allé en Égypte l'année dernière, c'est pareil. Oui, l'Égypte, bah oui, évidemment, l'Égypte. Non, mais on pourrait parler de la Grèce, on pourrait parler de l'Empire romain, on pourrait parler de la Perse. Alors évidemment, si on va chercher la Mésopotamie et tout, bien sûr, il y a plein d'histoires beaucoup plus longues que nous autres. Quand tu te dis qu'autant d'années séparent Cléopâtre des pyramides que des smartphones. Ouais, elle est connue celle-là, mais oui, elle est vraie, bien sûr. On est en 5785 en année hébraïque. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il y avait encore des mammouths au début de l'histoire égyptienne. Alors, moi, j'avais appris que quand les pyramides ont été construites, il y avait encore des mammouths qui marchaient à la surface de la Terre. Ce qui est vrai, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, j'ai vérifié, en fait, il restait quelques espèces de mammouths nains au fin fond de la Sibérie qui sont morts vraiment pas très longtemps après. Genre, c'est une espèce d'histoire comme ça, où genre c'est un peu une arnaque de les considérer comme des mammouths, parce que c'est pas vraiment des mammouths, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est des descendants des mammouths. Enfin, bref. Ça compte à moitié. Ouais, ça compte à moitié. Bah, tout ça pour dire que les pyramides, c'est très vieux. Ça, c'est vrai. Non, mais ça, c'est... Oui, bien sûr. Mais oui, c'est vrai. C'est des éléphants poilus. C'est ça, c'est des éléphants poilus. Des petits éléphants poilus. les aliens les ont mangés pour construire les pyramides. C'est ça. Bah oui, il fallait prendre des forces pour monter tous les blocs des pyramides. Donc ils ont mangé les mammouths. Du coup, on peut lancer la rumeur. Ce sont des mammouths qui ont construit les pyramides en Égypte. Vous le saviez ? J'ai appris ça sur Internet. Un streamer un peu calé là, qui dit des trucs. Tu les as connus, toi, les pyramides, du coup ? Pas aussi bien que Michel Drucker, mais oui. J'ai visité les pyramides, moi, quand j'étais ado. J'ai visité la pyramide de Gizeh. Non, sur le plateau de Gizeh, pardon. J'ai visité la pyramide de Khéphren. C'était trop bien. Pour produire de l'électricité, les pyramides, on n'oublie pas. Ouais. Il y a un truc qui est intéressant en Égypte. Si vous n'êtes jamais allé en Égypte, je vous souhaite d'y aller une fois dans votre vie pour visiter. C'est extraordinaire. Les temples égyptiens, évidemment, il n'y a pas que les pyramides en Égypte. Il y a un nombre infini de temples, de sites hallucinants à visiter. Et les temples ont tous des graffitis partout. C'est des graffitis qui sont gravés dans la pierre. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont pris des petits burins ou qui ont gratté pour écrire des petits mots d'amour. Donc, c'est terrible. C'est terrible, mais c'est comme ça. Il y a des touristes, au cours du temps, qui ont salopé tout le truc parce qu'ils voulaient absolument écrire leur nom avec le nom de leur amoureuse, avec un petit cœur, avec une date en dessous. Donc tu peux passer comme ça à côté d'un graffiti avec écrit Steph plus Kevin 2004. Super, Steph et Kevin. On est contents. Voilà. Donc, il faut se faire à l'idée. Malheureusement, c'est comme ça. Il y a des graffitis partout, machin et tout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des graffitis qui datent de l'époque napoléonienne. Il y a des graffitis qui ont été gravés dans des temples égyptiens par des soldats de l'armée de Napoléon, de passage. Et c'est écrit en très beau français. Alors pour le coup, c'est bien aligné, c'est bien fait. Ils ont écrit ici sont venus Hippolyte et Archibald, avec le nom de leur compagnie, avec le nom de la grande armée, vive l'empereur. Je sais pas ce qu'ils écrivent en bas, machin. Et ils mettent la date en dessous, 1810, je sais plus exactement la date du voyage. Mais voilà. Donc j'en ai vu des graffitis comme ça qui datent de l'époque napoléonienne. Ça fait bizarre. César plus Cléo, 50 avant JC. C'est comme les militaires allemands sur le chemin de garde du Mont-Saint-Michel. Ah ouais? Ça me rappelle en Bolivie, on était dans un rare lieu d'accouplement de flamants roses qui viennent presque plus à cause du surtourisme. Bref, t'as un panneau silence, t'as un couple américain qui franchissent la ligne et parle méga fort, j'étais grave trigger. Oh, le surtourisme, c'est vraiment l'enfer. Je dis ça, je suis une caricature vivante, hein. Je suis allé en Égypte, il y a du surtourisme. Donc ouais, mais c'est les flots de touristes là. Qui dégrade les écosystèmes et tout. C'est dur. Bonjour. Rien à voir, mais je ne trouve pas de réponse sur Internet. Quand seront votées les deux nouvelles motions de censure ? C'est normal que tu ne trouves pas de réponse sur Internet, puisqu'Internet ne sait pas quand seront votées les deux prochaines motions de censure. Le bureau de l'Assemblée nationale se réunit vendredi matin pour décider de la date. D'ici à vendredi, il faut s'abonner à ma chaîne Twitch. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est la seule chose, parce que à part ça, il faut attendre. Voilà. Les quotas de touristes sont-ils nécessaires ? C'est une bonne question, j'en sais rien. Voilà, je suis désolé, je ne suis pas du tout un spécialiste des questions touristiques. Je sais que c'est des enjeux un peu compliqués, un peu particuliers, économiques notamment. Voilà, et j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu des expérimentations dans les Calanques, à côté de Marseille, avec des horaires, avec des... Je ne sais plus, ils ont essayé de trouver un système pour limiter l'afflux de personnes. Je sais qu'il y a des discussions au Mont-Saint-Michel, pour mettre en place des quotas ou pas de quotas de gens qui vont visiter. Il y a des réflexions, il y a des je sais pas. Ça revient surtout à augmenter les prix et réserver ça aux plus riches. Bah voilà, je suppose que c'est l'un des aspects qui n'est pas tout à fait souhaité, mais qui risque de se produire, c'est que tu rends plus inaccessibles les lieux. Donc, accessible seulement aux personnes qui ont les moyens. Donc, comment mettre en place un système qui garantit une égalité, une équité, une justice dans l'accès au lieu, tout en préservant le lieu ? Je ne sais pas. je suppose qu'il y a des gens qui se grattent la tête pour essayer de faire entrer, de faire fonctionner ça. Je ne sais pas. C'est ça, il y avait moins de tourisme quand le billet d'avion, c'était 3 SMIC, c'est un problème complexe. Bah oui, c'est ça, c'est un peu le paradoxe aussi du truc, c'est que le surtourisme est aussi la manifestation d'un accès au tourisme plus facile pour les personnes qui ont moins d'argent. Mécaniquement, fatalement, il y a plus de monde. Mais c'est aussi des gens qui, avant, n'avaient pas les moyens d'aller à l'autre bout du monde. Donc, c'est chiant de leur empêcher d'avoir accès au lieu, quoi. Normalement, la motion de censure ne doit pas être votée dans les 48 heures après le dépôt. Alors, c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais, parce que j'ai entendu un célèbre streamer, une espèce de connard, là, je ne sais plus comment il s'appelle, dire ça. Sauf que il a l'air de s'avérer que c'est plus compliqué que ça. Attendez, je vais relire l'article 49.3. Après délibération du Conseil des ministres, dans ce cas, le projet est considéré comme... Sauf si une motion de censure déposée dans les 24 heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. On va donc lire l'alinéa précédent. L'Assemblée nationale met en cause la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure. Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale, 58 députés. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Attends, parce que du coup j'ai plein de questions. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt. Est-ce que ça veut dire que le vote ne peut pas avoir lieu avant 48 heures, mais que donc il peut avoir lieu après 48 heures, sous-entendu, il n'y a pas de limite ? Ça me paraît étrange. Ouais, non, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être pas avant 48 heures. Ça doit être pas avant 48 heures. Ce que moi, j'ai traduit par dans 48 heures. Alors qu'en fait... Ok, d'accord, intéressant. Ça doit être précisé. C'est-à-dire que la Constitution, c'est sympa, mais ensuite, tu as les précisions qui sont apportées par le règlement de l'Assemblée nationale. Alors, je sais pas où. Le règlement de l'Assemblée nationale doit préciser les modalités d'examen des motions de censure, nomination d'un groupe, présidence et bureau, pouvoir,
Commission spéciale, commission permanente, travaux des commissions, conférence des présidents, séance plénière, mode de votation, discipline. Ça doit être dans le bureau, page 19. Président machin, scrutin à la tribune. Ça, c'est les élections des vice-présidents. L'ensemble des postes, président des groupes, président de l'Assemblée, la répartition des postes, on s'en fout. Lorsque pour chacune des fonctions du bureau, le nombre de candidats, on s'en fout. Oui, donc c'est pas cet article-là. Vice-président, élection des vice-présidents et des questeurs, on s'en cogne. Oui, donc ça, c'est les modalités d'élection du bureau. Très bien, on s'en fout. La présidence du bureau. Présidence de l'Assemblée et bureau de l'Assemblée. Les questeurs, les machins, le bureau a le pouvoir de régler les délibérations, organiser, diriger les travaux, d'accord, service de l'Assemblée. Députés peuvent employer sous contrat des collaborateurs parlementaires. Les députés peuvent employer sous contrat de droit privé des collaborateurs parlementaires qui ne peuvent être affectés au fonctionnement habituel du Rassemblement national. Attends, quoi ? Non, je déconne. Oh, ça va ! Ça va, de toute façon, elle ne peut pas entendre, elle est au tribunal. Crédit et machin. Déclaration d'appartenance de groupe. Les groupes sont créés conformément à l'article machin. Ça, c'est la partie sur les groupes. Écoutez, j'en sais rien. Voilà, j'en sais rien, j'en ai marre. C'est pas pour rien que j'ai arrêté de faire du droit, c'est que j'en avais ras-le-bol de chercher des trucs comme ça. Je sais pas où est le truc. Ça doit être le bureau qui doit, d'une manière ou d'une autre, fixer la date de l'examen des motions de censure. Article 154. Ah, il y a des gens dans le chat qui ont l'air bien informés et qui me disent article 154. Alors attention, attention, hein. Est-ce que c'est une information de chat? Attention, je vais m'énerver. 151-10, 151-12, 156. Merde, attends, j'ai raté une page. 154. Chut. La conférence des présidents fixe la date de discussion des motions de censure qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de 48 heures consécutives au dépôt. Ok, c'était pas une info de chat, vous avez raison. Merci les gens du chat, merci le chat. Donc, c'est la conférence des présidents qui fixe la date de discussion. Sachant qu'il y a le délai constitutionnel de 48 heures après le dépôt, pendant lequel on ne peut pas discuter des motions de censure, puis il y a un délai de 3 jours ouvrés pendant lesquels on peut discuter. Voilà, ça veut dire que les motions de censure ont été déposées hier, les 48 heures vont jusqu'à demain 17h et des brouettes, ou 19h, je ne sais plus ce qu'elle a dit. La conférence des présidents se réunit vendredi matin et la conférence des présidents doit déterminer si l'examen des motions de censure se fait vendredi après-midi, lundi matin, lundi après-midi, mardi matin, mardi après-midi. Ah ben non, mardi après-midi, c'est pas possible, il y a les QAG. Bon bah si, après les QAG, on peut. Voilà. Il y a 5 demi-journées pendant lesquelles on peut avoir une motion de censure. En gros, ça doit être discuté dans la semaine qui suit le dépôt. Non. Une fois que les motions de censure sont déposées, elles ne peuvent pas être discutées dans les 48 heures. Puis, il y a un délai de 3 jours max qui s'ouvre pendant lesquels elles doivent être discutées. Et c'est la conférence des présidents qui détermine le moment exact. On a le droit d'en parler maintenant dans un chat de Jean Massier où c'est comme pour les présidentielles. Non, ce n'est pas une période de réserve. On a le droit, nous, en tant que citoyens, de discuter des motions de censure. La conférence des présidents, c'est quoi? Alors attends, on va lire direct le truc. On a son président du bureau. Conférence des présidents, page 37. La conférence des présidents se compose, outre le président, évidemment, de l'Assemblée, des vice-présidents de l'Assemblée nationale, des présidents des commissions permanentes, des rapporteurs généraux de la commission des affaires sociales et de la commission des finances, du président de la commission des affaires européennes et des présidents des groupes. La conférence est convoquée chaque semaine, s'il y a lieu, par le président, au jour et à l'heure fixés par lui. En l'occurrence, là, c'est elle, mais bon, on va pas chipoter. Elle est également convoquée par le président à la demande d'un président de groupe pour qu'elle puisse exercer, le cas échéant, les prérogatives qui lui sont reconnues par les articles 39 alinéa 4 et 45 alinéa 2 de la Constitution. Confère la Constitution. Dans les votes émis au sein de la conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué au président des groupes un nombre de voix égal au nombre de membres de leur groupe après défalcation des voix des autres membres de la conférence. J'adore le droit. J'adore la légistique. La défalcation, mesdames et messieurs. Le président, les présidents des commissions spéciales et le président de la commission institués à l'article 80 peuvent être convoqués à la conférence des présidents sur leur demande. Le gouvernement est avisé par le président du jour et de l'heure de la conférence. Il peut y déléguer un représentant. C'est sympa, on a laissé une chaise pour un mec du gouvernement s'il veut assister aux discussions. Mais il vote pas, lui, hein, il ferme sa gueule. Qui a défalqué ici? Ah bah bravo. Vous faites des blagues graveleuses et grasses alors qu'on apprend des mots du patrimoine de la langue française, de l'Académie française. Vous n'avez aucun respect pour la France. Horizon ont critiqué le budget pendant les QAG. Est-ce qu'il y a un monde où ils votent la censure ou c'était juste pour râler? C'était juste pour râler. Horizon ne va pas censurer le gouvernement. Horizon tire la tronche, Horizon grince des dents, Horizon exprime son courroux à destination d'un gouvernement qui a fait trop de concessions à la gauche, selon eux, dans un budget dans lequel tout part à volo. Ils sont pas contents, ils le disent, mais ils vont pas censurer le gouvernement. Ça n'aurait aucun sens. On n'est pas à l'aube d'une fronde, c'est pas vrai. Horizon, s'ils censurent, ce serait se censurer eux-mêmes. Bah, un peu. Merci, Tewata. Merci. Didadidadjoum. En vrai, une censure à ce stade, au-delà des convictions politiques sur l'interne, vu où en est le taré orange, c'est peut-être pas l'idée de l'année. C'est l'argument, effectivement, qui est mis en avant, en tout cas qui est relayé par le Figaro de la part de Laurent Wauquiez, qui dit que, compte tenu du contexte international, c'est pas le moment de rajouter du bordel en France, puisque censurer le gouvernement, ça voudrait dire ne plus avoir de gouvernement et ne toujours pas avoir de budget. Bref, mettre la France dans une situation de panade, alors qu'on a besoin d'être fort en ce moment avec nos voisins européens pour résister aux dingueries de Trump. C'est un argument. C'est pas inentendable. Ça joue. C'est pratique aussi parce que ça évite d'avoir à s'exprimer sur le contenu du budget sur lequel Laurent Wauquiez, à mon avis, lui aussi aurait bien des critiques. Le problème, en fait, je réfléchis à haute voix, mais le problème avec ce type d'argument, c'est qu'il est valable tout le temps, en fait. Alors, bon, ok, je vous l'accorde, là, en ce moment, on est dans un moment de tension non négligeable d'un point de vue diplomatique avec les États-Unis sur la question du Groenland. Voilà, mais le besoin de stabilité, c'est un argument qui est valable tout le temps, en fait. Pourquoi on fait une élection présidentielle en 2027 ? Vous croyez vraiment que c'est le moment ? Bah, en fait, c'est jamais le moment. C'est ça le problème en démocratie, une élection, c'est jamais le moment. Et je trouve dangereux un discours qui consisterait à dire qu'une élection est une faiblesse pour un pays. Alors, c'est un moment d'incertitude, ça c'est vrai. Mais c'est pas une faiblesse dans une démocratie forte. Donc, voilà. Là, on se pose la question de se foutre sur la gueule quand même. On n'en est pas encore à ce stade-là. On parle d'une censure du gouvernement, c'est pas une élection, une simple élection planifiée. Oui, t'as raison, une censure du gouvernement, c'est plus soudain, c'est plus inattendu. Je pense que les mi-termes, c'est pas une bonne idée pour la situation américaine actuelle. Faudrait les annuler. Putain. My. Donc, en fait, je suis désolé parce que je plaide pas pour la censure ou contre la censure. En fait, j'en sais rien. Je dis simplement que les arguments mobilisés par Laurent Wauquiez lui sont utiles, mais ont des limites. Wauquiez cherchait justement un argument pour pas assumer qu'ils peuvent pas censurer sans se voir détruire à de futures élections législatives. Ils sont bloqués. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je sais pas. On verra, on aura le temps d'en discuter. Je sais pas encore quand sera la date. On en rediscute. Les copains, je vais y aller. On se retrouve demain. On se retrouve demain à quelle heure déjà ? Qu'est-ce qu'il a dit le streamer ? Dans sa programmation qu'il a publiée sur Blue Sky, 15h. Demain, 15h. Rendez-vous, même endroit, même live. Merci pour vos subs, merci les coupins. C'était cool et passez une bonne après-midi. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt. Salut tout le monde, ciao. Pas avant 15h ou après 15h. Putain, tu fais chier.